啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。Alors, c'était pas bien les années 70 ? Hein ? C'est pas autre chose que Breaking Bad ? Parce que c'est pas le générique de Breaking Bad qu'on chante, mais le générique de...
Roda !
Bonjour à tous !
Salut !
Bonjour, salut !
Nous sommes quatre pour un nouveau podcast de Perdusa, avec aujourd'hui Blackie,
salut.
Tigrou,
salut.
Fertis,
salut.
Et moi,
Gégé.
Bonjour. Pour discuter de séries, on n'aura pas de sommaire bien spécifique, ce sera une conversation entre gens de qualité.
C'est ça que nous sommes.
Et commençons tout de suite par Breaking Bad. On a raté le premier, puisque là c'est notre deuxième essai, l'iPad a craché, tout ça. Au moment donné où il a craché, on parlait de... du développement des séries pop-corn et de l'exemple de Breaking Bad qui était une série de pur divertissement érigée en série entre guillemets importante.
En chef-d'œuvre.
Oui, en chef-d'œuvre.
Hein, parce que les gens...
En meilleure série de tous les temps.
Oui, meilleure série de tous les temps.
Qui est aussi bien qu'un film de cinéma.
Et... Bon, parlons de cette dernière saison, pour ceux qui ont suivi la dernière saison, après on parlera de Breaking Bad en général, et de cette pseudo-influence de la vie générale et des commentaires sur Internet. Bon, on dira du mal de ça, sachant que c'est quand même la base de ce que l'on fait. Mais on dénigrera les commentaires de
Exactement.
Tous les gens qui Exactement. Ne sont pas nus. Bref, cette dernière saison de Breaking Bad qui a viré à l'hystérie collective à la diffusion de chacun de ces derniers 8 épisodes, qu'en avez-vous pensé ? Blackie, qui a pleuré à la fin, tellement elle était émue, la rédemption, tout ça.
C'est non ? Ça. Non, j'étais au moins contente que certaines choses soient réglées, notamment au niveau de sa femme, de Skyler. Puisque tout le monde râlait sur elle, c'était la mégère qui bloquait Walt depuis tellement longtemps. Mais bon, on sait tous comment ça s'est fini. Hein. C'est un type qui finalement est gentil, a réussi à se pardonner sur la fin et il meurt en paix. Voilà. Il a réussi à sauver Jesse, c'est un ange.
Moi, j'ai, comme toi, j'ai été très gênée. Pourtant, j'avais vraiment adoré le début de la saison, qu'effectivement, c'était que de la forme. Hein. Il n'y a pas de fond. Peu de fond dans Breaking Bad, mais pendant les 6 premiers épisodes, c'était une montée en puissance qui était vraiment assez virtuose et assez réussie. Et les 2 derniers, j'ai pas compris. En fait, ça m'a laissé sur l'impression assez désagréable que j'avais pas regardé la même série que celle que le créateur voulait me montrer. Et effectivement, qu'il n'avait pas un énorme recul en fait sur son personnage principal qui finalement... Tout le dernier épisode est fait pour qu'il ait la fin la plus positive possible et qu'au fond on nous le montre comme quelqu'un de sympathique et finalement de très viril, de très. C'est un peu l'homme
le
viril
provider,
qui a fait des erreurs mais qui en même temps il fait tout pour sa famille
pour
à
sa
la
famille,
fin.
Ouais,
et il n'y a pas de. Et il y a des moments où ça fonctionne, hein, parce qu'au fond c'est un personnage. Ils ont toujours réussi à jouer un peu sur cette ambiguïté, mais autant il y a d'autres moments plutôt dans la saison où ils arrivaient à montrer le personnage de façon pas complètement antipathique, sans excuser ce qu'il faisait, et autant les 2 derniers épisodes, c'était vraiment... du coup, c'était assez lourd, en fait. C'était, chaque scène était là pour le faire se réconcilier avec un personnage, montrer qu'en fait, il n'était pas si méchant. Et j'étais très déçu, à vrai dire.
Et c'est vrai qu'effectivement, l'écriture de Breaking Bad n'est pas si subtile que ça, parce que... tu parlais d'ambiguïté. À un certain moment de la série, effectivement, on a l'impression que la série laisse la place au spectateur de se former sa propre idée. Ouais. Mais parfois, on sent que les scénaristes se sentent obligés de bien faire dire les choses. dans l'une des dernières scènes de Skyler, il y a quand même Skyler qui, en gros, lui explique « Ah non, tu n'as pas fait ça pour ta famille, tu es vraiment très très méchant, etc. » Et on a l'impression que les scénaristes sont en train d'essayer de valider ce qu'ils n'avaient pas vu dans leur propre série.
C'est pire, c'est pas Skyler qui lui dit, c'est lui qui à un moment le dit d'une façon qui est un peu étrange, où en fait il nous explique qu'il l'a fait pour lui-même, comme si on avait vraiment besoin que le personnage le...
Oui, c'est, voilà,
alors
c'est
après,
lui qui fait ça.
Il le reconnaît, c'est pas inintéressant, mais c'est comme si c'était pour bien clarifier qu'on a bien interprété le personnage comme il voulait qu'on l'interprète. C'était un peu...
Ça sent qu'il a été très influencé par tous les commentaires sur Internet. Il n'a pas réussi à s'en détacher. Et il s'est dit, alors voilà, les gens n'ont pas bien compris ce que je voulais faire. Il faut en même temps leur faire plaisir et remettre un peu sur la voie. Donc c'est pour ça que la fin, pour moi, elle est un peu... Elle est plate parce qu'elle est un peu au milieu. C'est je vais faire plaisir à tout le monde et en même temps, je vais me faire plaisir à moi parce que je veux qu'il meure, parce que je veux qu'il y ait une boucle.
Et puis,
il était coincé entre deux chaises.
Il finit vraiment sur une victoire. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il meurt dans les trois dernières secondes de l'épisode. Mais sinon, ce qui était fort dans cette fin de série, c'était qu'à un moment, tout dérapait.
Tout
et
dérape.
Que justement, il ne contrôlait plus rien. Et c'est là que la série est bien. Et moi, ça ne m'intéresse pas de voir Walter White
jouer
tous les méchants avec une mitrailleuse. Quoi.
À la fin, c'est l'agence touriste. C'est un plan parfait. C'est l'exécution d'un plan qui se passe à la perfection. Il n'y a rien qui... Les méchants sont positionnés exactement pile comme il faut. Et la mitraillette envoie la balle pile au bon endroit pour tuer tous les méchants qu'il faut. Le super méchant, le laisser... pouvoir dire ces trois dernières phrases bien dramatiques. Et effectivement, je ne sais plus, j'avais entendu que ça pouvait être aussi un rêve, c'est-à-dire que Walter était mort depuis bien longtemps et qu'en gros, c'était la fin telle qu'il imaginait.
Ouais.
C'est, au final, ça aurait pu,
ça aurait pu être
intéressant. C'est-à-dire
c'est
qu'en fait, il était déjà mort dans sa cabane congelée, frigorifiée, comme le pauvre mec qu'il a toujours été. Et... la série a pas osé, les scénaristes n'ont pas osé présenter Walter White tel que, d'après la trajectoire qu'on avait depuis le début, en gros, c'est vraiment un connard du début à la
fin.
Hein.
Oui,
c'est juste un gros trou du cul qui n'est pas content de sa vie.
Voilà, il en veut à la vie.
Parce qu'il estime que, comme il est blanc et intelligent, il devrait être
le roi du monde
et être Bill Gates. Il l'est pas.
Il a les boules.
Et voilà. Et le résultat. Pour dépasser ça, il est obligé de développer sa virilité dans la violence, le gangstérisme et tout ça. Et sauf que ça, la série, finalement, à la fin, ne nous le montre pas, elle ne nous dit pas.
Et en plus, c'est extrêmement manipulateur parce que moi, le mettre contre des néo-nazis dans le dernier épisode, où vraiment, ils sont affreux, mais ils tuent des innocents dans tous les épisodes avant. Et... évidemment, forcément, quand on met un personnage comme Walter White, qui est vraiment dégueulasse, mais qui a un peu plus d'ambiguïté face à des néo-nazis, il devient le héros. Mais c'est facile et c'est manipulateur.
C'est syndrome,
et c'est sans intérêt, surtout.
C'est le syndrome Sons of Anarchy depuis la saison 2.
C'est ça.
C'est ça. C'est le moment où il y a le train, là, l'épisode du train, où il y a Landry qui tue un enfant. Mm-hmm. Et là, il y a Jesse qui se rend compte que tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'était... tellement grave parce que ça arrive à la mort d'un enfant.
Mais ils ont déjà tué un enfant pourtant.
C'est différent.
Différent.
Ils avaient tué un enfant.
C'était un petit gamin.
Un gamin qu'ils ont renversé ou je sais pas quoi. Il y avait une histoire.
Non, il meurt mais c'est pas de leur. Enfin, ils le
tuent
pas.
Si, c'est de leur faute.
Oui, c'est de leur faute, mais ils le. Mais...
Oui,
non, mais effectivement. Mais de toute façon,
c'était voilà, c'est ça, ouais,
il fallait que ce soit un enfant parce que s'ils avaient juste tué.
Tu aurais
pu être une femme enceinte, éventuellement.
Oui.
Sinon,
mais
si c'était juste
un Mexicain, c'était pas grave.
Et surtout, moi, dans Breaking Bad, ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est qu'ils font quand même de la drogue pendant 6 saisons et l'impact du produit qu'ils distribuent sur des gens. N'est jamais vraiment montré. En fait, ce qui est grave, c'est que du coup, ils se retrouvent embrigadés avec une espèce de... des mafias, qu'il y a des gens qui meurent autour d'eux, des explosions, que ça impacte leur famille. Ensuite, de temps en temps, t'as quelqu'un qui fait vaguement une overdose, mais
c'est ça.
Au fond, ça, c'est pas très grave.
Oui.
Mais Blackie, tu penses vraiment que les commentaires sur Internet et l'espèce de... d'avis qui s'en dégage a une influence sur, sur les créateurs des séries, sur...
Je dis pas sur tous les créateurs.
Non, mais c'est une vraie question que j'ai, je sais pas du tout.
Je pense que Matthew Weiner arrive très bien à s'en détacher, il fait vraiment son truc avec Mad Men. Je pense qu'il s'en fout complètement.
Ceci dit, je pense que Mad Men, il écrit avant même de produire les épisodes, la série déjà écrite, non ? Il y a pas...
C'était un projet qu'il avait en tête depuis au moins 10 ans. Donc, même, c'est vrai qu'il y a toujours la chaîne qui peut influencer, qui peut dire non, on préférait que vous alliez dans cette direction, parce que c'est comme ça que ça marche.
Et puis, quand tu vois le succès
les focus group et tout ça,
tu vois le succès que John a auprès du public, et finalement, on l'a très peu vu dans la dernière saison.
John qui ?
John.
John.
Enfin, c'est un personnage que le public aime beaucoup. Tout le monde l'aime. Tu vois sur Internet, c'est un peu la star de avec Don. C'est quand même un peu la star
de Mad Men.
Et finalement, c'est vrai que s'il avait écouté l'entité Internet, on aurait peut-être eu droit à plus de scènes avec elle, un plus grand développement. Et finalement, non.
Et sa manière de traiter Betty aussi, je trouve qu'elle est. On n'a pas l'impression qu'il essaye de faire plaisir aux gens qui n'aiment pas Betty.
C'est vrai.
Qu'il a les cartes de. Enfin, il a l'air de suivre une trajectoire qui est définie. Mais je suis assez d'accord que sur Breaking Bad, moi j'avais l'impression que dans la dernière saison, il y avait des choses qui avaient. Voilà, qu'il avait notamment dans la perception de Skylar ou des choses comme ça, il avait essayé d'intégrer ou de corriger des choses. Et d'ailleurs, il est intervenu plusieurs fois en fait pour. Pour parler de ça, alors que Matthew Weiner, je pense pas qu'il intervienne pour commenter, à part quand il y a des rumeurs débiles.
Je crois qu'il avait commenté sur Betty quand même, en disant qu'il comprenait pas pourquoi elle était aussi mal aimée.
D'accord.
Il me semble, j'ai rêvé, mais.
Mais Breaking Bad est devenu très populaire ces deux dernières années.
Oui,
Populaire dans le sens, vraiment le grand public s'y mettait, tout le monde s'y intéressait. Alors que Mad Men, même si ça a eu. On en a beaucoup parlé dans la presse, il y a eu des récompenses, mais c'est pas ma voisine ou ma mère qui va se mettre à regarder.
C'est moins accessible, on va dire.
Mais continuons avec les séries dont la popularité paraît un peu surréaliste. Il y a The Walking Dead.
C'est mieux cette année, mais c'est toujours un peu nul quand même. En fait, c'est juste que comme les personnages ont été... un tout petit peu développé et qu'effectivement, de temps en temps, quand il y en a un qui meurt, pendant, je sais pas, 3 secondes, on se sent concerné, tout le monde a dit que c'était beaucoup mieux et en fait, c'était juste, je trouve, le minimum de ce qu'on pouvait attendre d'une série télé. Donc,
c'était
correct, mais...
Ça donne l'impression qu'ils se recentraient un peu quand ils ont fait le virus. On avait une menace... qui était vraiment interne, parce que les zombies, ça fait déjà 3-4 ans qu'on sait qu'ils sont là. Ils sont dangereux quand ça les intéresse, ils sont faciles à tuer quand ça les arrange aussi. Par contre, le virus, c'était au moins une menace un peu nouvelle, c'était un peu plus interne, plus recentré. Et, ça amenait plus de drame, c'était quelque chose de différent. Depuis, on est retourné au gouverneur, qui déjà nous saoulait l'an dernier. 2 épisodes centrés sur lui, qui ne servaient à rien du tout. À part montrer que les gens apparemment sont vraiment stupides quand c'est l'apocalypse.
Ça, on a compris depuis 3 saisons.
Mais est-ce que dans The Walking Dead, moi j'ai arrêté la série après la première saison, j'ai vu les 6 premiers seulement.
Moi aussi.
Est-ce que y a un discours qui est développé un peu comme les premières saisons de Battlestar Galactica, qui est comme Survivor en fait, qui est comment s'organisent les groupes des survivants quand on est beaucoup moins, etc. Ou
non,
est-ce que c'est en arrière-plan
ou est-ce que c'est blanc Tu choisis un mâle blanc hétéro d'à peu près 40 ans et ce sera ton leader et tu le suis aveuglément. Voilà.
Et en fait, quand il veut plus être le leader parce qu'il a tué genre 15 personnes, qu'il fait que de la merde depuis 3 saisons, il refuse d'être le leader et tout le monde vient le voir à peu près 10 fois par épisode pour lui dire mais vraiment. Sur ce casting très divers, il n'y a que toi qui peux être notre leader. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Mais,
c'est génial.
Mais il n'y a pas de discours dans The Walking Dead. Enfin, ils essayent en fait des fois, mais il n'y a jamais de... Moi, je n'ai jamais vu de cohérence thématique sur une saison. Éventuellement, sur un épisode, on peut avoir une vague question qui est posée et souvent maltraitée. Mais
parce que pour le coup, dans les comics, c'est quand même au cœur de l'histoire.
Ouais, ouais, mais dans les comics. Mais là, par exemple, après, moi, j'ai pas regardé la deuxième partie de la saison 3 parce que c'était vraiment plus possible. mais je n'ai jamais vu, effectivement, quelque chose se dégager de la série. Et l'intérêt du début de saison 4, c'est que justement, ils avaient l'air de se recentrer un tout petit peu plus sur l'impact de la vie en communauté. Est-ce qu'on peut, j'en sais rien, sacrifier un malade pour pas contaminer les autres, choses comme ça. Mmh. En même temps, ils posent des questions sans vraiment y répondre. Ça les intéresse parce que ça crée des tensions potentielles entre les personnages, mais on peut pas dire que à chaque fois, on a l'impression qu'en fait, ils laissent les gens tirer leurs propres conclusions.
C'est pratique. Hein.
C'est déjà un peu mieux qu'avant, ou quand la vie en communauté, c'était en gros les femmes font la lessive. Ouais.
Oui, enfin là, du coup,
elles peuvent tirer.
Une femme qui fait un tout petit peu plus de choses et du coup, il l'exclut de la communauté parce que c'est pas bien.
Parce qu'elle a gagné une personnalité.
Voilà. Ouais. Mais bon. Non, c'est vraiment la série qui sert à rien.
C'est toujours un peu difficile d'expliquer les succès ou les phénomènes de mode, mais en gros, les trois grosses séries de cette année, d'un point de vue succès populaire ou engouement général, c'est Breaking Bad, Game of Thrones et Walking Dead. Ouais.
Deux séries de genre sur trois, là, tu cites.
Trois séries de genre.
Trois, parce que c'est Scarface, c'est le film de gangster.
C'est plus stylisé, fiction, ça marche beaucoup mieux.
Alors, deux séries à très gros budget, Breaking Bad qui avait un micro.
Game of Thrones, c'est quand même pas tant que ça. C'est assez proche de la série historique. Enfin, tu rajoutes trois mini-dragons et on est. C'est Merlin, c'est Borgia ou je sais pas quoi, et les Tudors, c'est des histoires de pouvoir, de machin. C'est pas vraiment une série de genre, Game of Thrones.
Un petit peu quand même.
C'est situé dans un Moyen-Âge qui n'existe pas. Il y a le mur là.
T'as quand même la menace,
Puis ça a l'angle d'une série de genre, et après, effectivement, dans l'exécution, moi, ça me fait penser à Rome, en moins bien, mais je pense que ce qui a fait une partie du succès, c'est que les gens sont accrochés par le côté fantasy. Et c'est pour ça qu'on est obligé de nous montrer un petit bout de dragon à chaque fin de saison pour donner l'impression qu'il va se passer un truc fantastique un jour dans la série, quoi. Mais Walking Dead, j'ai du mal à. En fait, c'est surtout que pour le coup, j'ai l'impression que même les gens qui regardent et qui adorent la série admettent en fait que c'est pas très bien, mais c'est regardé quand même. Je saurais pas expliquer.
Ah oui, non, moi ça me dépasse aussi.
Moi, ce qui m'énerve, c'est que généralement, ces gens-là qui vont dire que Game of Thrones est génial.
Montrez-les du tout.
Non, je veux dire par là, les gens qui vont râler sur certaines choses, sur d'autres séries, genre, oh non, les soaps, c'est vraiment stupide, ça c'est vraiment idiot. Et ils adorent Game of Thrones, et t'as envie de leur dire, mais tu vois pas tous les éléments de soap qu'il y a dans Game of Thrones. C'est pas parce que t'as une superbe production, des costumes et de l'argent, que tout de suite, ça vaut mieux qu'une autre série qui aura un petit peu moins de sous. Dans le fond, t'as les mêmes mécanismes, t'as le même style d'intrigue.
Mais surtout que Game of Thrones en série, moi je trouve que ça fonctionne pas très bien. Enfin, honnêtement, quelqu'un qui n'a pas lu les livres, je pense qu'il comprend rien de rien. Et ils ont vraiment fait. Enfin, la deuxième et la troisième saison, il y avait des moments très lourdingues ou très maladroits. La fin de la troisième saison, c'était quand même assez. Assez consternant de bêtises de voir la seule blanche d'une zone se faire ériger en reine par tous les
toute la population
du local sans aucune raison, et que ce soit le cliffhanger de la saison.
Il y a pas les scènes de torture à chaque épisode qui n'ont servi à rien.
À rien de rien.
Voilà.
C'est une série qui a des fulgurances, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais en même temps, ça ne fonctionne pas comme une série. Il y a des scènes qui vont et le reste, c'est ça. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de. Et The Walking Dead, c'est pareil, de temps en temps, il y a une scène avec un zombie qui réussit.
Et tout ce qu'on dit de ces trois séries, on pourrait le dire de toutes les nouveautés de la rentrée des networks américains. C'est-à-dire que ça fonctionne pas bien, il y a avec des discours très creux et...
C'est des séries vides, des séries vides, plates, que tu oublies une fois que tu as vu. Voilà à quoi on a droit cette année.
Et encore, c'est encore plus marqué que comme tu le disais hier, il n'y a plus de séries judiciaires à l'antenne qui étaient les séries un peu faciles pour avoir un petit recul sur l'actualité, dire des choses un petit peu...
Avoir un discours, moi j'attends un minimum de discours, c'est tout. Ça fait plaisir d'avoir... J'étais contente de revoir Trémé, là, parce que je savais qu'il y avait un discours derrière. Il disait des choses. J'étais là, ah ouais, une série qui va me faire réfléchir, parce que...
Oui, quand tu dis discours, c'est pas forcément quelque chose de didactique non, 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 à la David Kelley, où on va t'expliquer
non,
que...
Mais
qui est un contexte, qui est quelque chose dans lequel des personnages vont pouvoir... se construire, parce que tu ne te construis pas uniquement face à la menace d'un cavalier sans tête.
Tu râles beaucoup sur Cipiolo, mais en même temps, Scandale n'est pas non plus une critique de la politique.
Ah, hein. Oui, non,
c'est le même principe, c'est une intrigue qui a une tonne de rebondissements, et donc tu as envie d'être là la semaine prochaine pour avoir la suite.
Mais Scandale, c'est vraiment nul. Ça se regarde parce qu'il y a des rebondissements, mais c'est dans le genre de série sans fond. C'est quand même la série qui, en deuxième saison, explique qu'ils ont truqué l'élection et qu'en fait, faudrait pas que ça se sache parce que ça va rendre les Américains tristes de savoir que leur système a été truqué. Et il n'y a pas des masses de recul sur cette affirmation.
Non, mais Shonda Rhimes, elle n'a aucun recul sur rien, et même dans Grey's Anatomy.
Bon, alors on va se calmer sur Shonda.
Non, mais moi je l'aime beaucoup et je suis ravie qu'elle donne un rôle principal à une femme noire à la télévision. C'est important, mais ces séries sont creuses, complètement creuses. Hein. C'est des soapes.
Oui, ce sont des soapes.
C'est des soapes. Soap. Et il n'y a aucune...
Mais Grey's Anatomy aussi, ça, je veux dire.
Ouais, mais peut-être que moi, Grey's Anatomy, j'ai arrêté il y a longtemps, mais ça me choquait moins parce que, bon, ils pouvaient faire éventuellement un discours sur la médecine ou l'accès aux soins.
Non, mais même pas. Ils le font
jamais.
Il n'y a pas de scandale.
C'est une série qui, pour moi, ne peut pas se permettre d'avoir. Déjà, les personnages n'ont aucune épaisseur, il n'y en a vraiment aucun dont je me soucie. Ils sont tous plus incompétents que les uns que les autres et c'est quand même un peu terrifiant dans une série où on te répète toutes les deux minutes qu'ils sont les meilleurs des meilleurs dans leur métier, alors que honnêtement je pense qu'un enfant de 12 ans peut faire mieux que chacun dans sa profession. Et puis c'est une série qui parle de torture, qui parle de politique et qui le fait d'une manière vraiment assez consternante, donc je suis très étonné par l'emballement qu'il y a eu sur cette série.
Moi j'avais bien aimé la saison 1. Mais c'est vrai que...
La 1 ou la 2 ou la deuxième, première partie de la saison 2 La 1, c'est 7 épisodes où... La stagiaire.
Non, c'était pas terrible ça. Saison 2. Mais...
Je pensais pas que j'en viendrais à défendre Scandale. C'est pas si nul que ça. Moi j'ai vraiment... Pour le coup, c'est une série pop-corn au même titre que Breaking Bad. Pour moi, c'est la même chose, ce genre de série. Et effectivement, Scandale a plus marché avec moi parce que ça flatte plutôt ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire des femmes qui sont formidables, des homosexuels qui ont le pouvoir, même si, effectivement, désormais, j'ai envie que... Les deux gays meurent
d'atroces souffrances et qu'on donne leur bébé à quelqu'un d'autre.
Et c'est vrai que la série rate. C'est une série qui est hypertrophiée. Moi, j'aime beaucoup les dialogues. J'aime beaucoup la façon. J'aime beaucoup le.
Moi, je peux pas l'hystérie pas mal.
La spécificité de ça, c'est-à-dire que t'entends une minute de dialogue, tu sais, si tu vois pas les images. Si tu ne reconnais même pas les voix, à la façon dont les dialogues sont prononcés, sont écrits, tu sais que c'est Scandale. Et j'aime bien qu'il y ait une identité avec la langue, etc. Enfin, je trouve ça assez drôle. D'un point de vue purement pop-corn, rebondissement, c'était plutôt très très bien géré. Je trouve en saison 2, ils ont tenu 20 épisodes de façon assez virtuose. Maintenant, effectivement... les choses qui gênent commencent à être de plus en plus apparentes et à parasiter les rebondissements. Et effectivement, c'est difficile de, alors comme tu dis, de dépasser le fait qu'effectivement, le vrai problème du trucage de cette élection, c'est qu'ils n'ont pas dit à Fitz, c'est que ça met en danger sa relation avec Kerry Washington. Et là, toutes les relations entre les journalistes et le pouvoir avec... L'unique journaliste politique des États-Unis couche donc avec le numéro 2 du gouvernement américain. Il lui fait une scène gigantesque parce qu'il n'a pas accès à un interview. L'autre dit « Oui, il y a peut-être un conflit. » Genre, l'autre est prêt à divorcer. Donc, effectivement, l'autre cède. C'est... Ouais. Tu vois, c'est une série qui ne tiendra pas longtemps, mais ça...
Non, mais à la limite, je suis d'accord hein, qu'il y a des rebondissements et qu'effectivement, quand on regarde à la fin d'un épisode, souvent, on a envie d'enchaîner sur le suivant, en tout cas en saison 2. Après, je trouve ça dommage, après deux saisons, qu'aucun des personnages n'ait la moindre consistance. Parce que vraiment, enfin, il y a Olivia Pope qui, bon, c'est la meilleure parce qu'on nous le dit, parce que concrètement, elle est quand même... elle se plante une fois sur deux, j'ai l'impression.
Mais et c'est à parce côté qu'elle de fait ça, confiance à ses guts, tu vois.
Oui, bah c'est ça aussi. Hein, c'est hyper. C'est une femme, donc elle fait confiance à son instinct, voilà, à son boulot. Bon,
elle se plante une fois sur deux.
Et elle se plante une fois sur deux.
Et donc elle éclate en son boulot.
Elle pleure.
Elle éclate en son boulot.
Elle éclate en son boulot.
Elle met sa tête sur l'épaule d'un mec.
Et elle se dans le Coubertin. Elle a des putains de verres. C'est des trucs. C'est des 2 000 litres, quoi. J'adore.
Mais à côté de ça, ses employés, il n'y en a pas un seul qui m'intéresse. Enfin,
les gladiateurs, tu les trouves pas formidables, les gladiateurs?
Non, les gladiateurs, c'est vrai.
Ils en avaient fait quelque chose d'intéressant. La dernière, chacun avait un petit peu son intrigue. Même Joshua Molina avait quelque chose à faire.
Oui. C'est qui Joshua
Molina? Mais Joshua Molina, c'est le plus gros ratage de cette saison 3. Parce que c'était le contrepoint, c'est le contrepoint moral à tout ça.
Mais en fait,
Pour le garder dans la série, je sais pas.
Ils savent plus quoi faire, oui.
Tous les gladiateurs, ils ont rien à faire cette année. Non. Rien, à part Huck qui est juste devenu une caricature
Ça a toujours été problématique. Ça a toujours été le problème de la série. C'est vraiment débilissime.
Je déteste Queen.
Non mais Queen, elle est inconsistante. Mais c'est pas la scène de la fin de la saison 2 où il y a des scènes de torture où il torture quelqu'un pour trouver l'information qui va sauver Olivia Pope et empêcher qu'on révèle qu'ils ont truqué l'élection. Avec un espèce de fond de musique décalée, genre il torture et en fait c'est rigolo.
Ouais.
Je comprends, enfin c'est vraiment perturbant quand même. Et je pense qu'il n'y a pas d'intention derrière, mais à un moment faut quand même réfléchir un petit peu quand on montre ce genre d'image.
Oui.
Bon.
Ouais, mais j'ai pas vu le dernier épisode là. Mais celui d'avant commence par une scène de torture vraiment, vraiment perturbante où c'est Huck là, qui torture, comment elle s'appelle, Queen.
Quoi ? On est en train de le spoiler là.
C'est pas grave, non, je m'en fous. C'est
pas grave. Pardon, mais t'avais dit que t'arrêtais Scandale ?
Oui, mais en fait, j'arrête, je vais reprendre.
Oui, bon. Bref, tu t'en fous, c'est pas grave, non, ça n'a pas d'importance.
Et... C'est vraiment très très bizarre
très
parce que justement là il n'y a pas de point de vue.
Elle a poil en plus.
Où il y a une espèce d'ambiguïté qui est il la torture. Bon, c'est vrai, il va lui prendre du plaisir, mais quand même ça va lui faire du mal parce que c'est son ami. Et en fait, on n'est pas dans l'ambiguïté, on est dans la pure bêtise et des images hyper choquantes. C'est problématique le rapport qu'ils ont.
Parce qu'en plus, on ne peut pas s'empêcher de voir Queen comme une traîtresse.
Oui.
Et du coup, là aussi.
Parce que ça pourrait être assez, assez excitant de suivre, pour le coup, des vrais anti-héros, c'est-à-dire, c'est vraiment les grosses ordures qui, pour leur gain personnel, font tout et n'importe quoi. Ce serait plutôt intéressant s'il y avait vraiment ce point de vue, comme dans Breaking Bad, où on nous dit c'est une ordure finie, qui a un positionnement moral. Je sais pas, pour un retour à la morale de façon générale, avec des petites leçons et tout à la fin, en disant c'est bien, c'est pas bien. Mais que sous couvert des anti-héros, sous couvert de on laisse le spectateur se forger sa propre opinion, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de regard sur, sur ce qui se passe.
Oui.
D'ailleurs, le seul personnage que je supporte encore dans la série, moi, c'est la, la femme du président qui bon, est complètement conne comme tous les autres, alors qu'on dit sans arrêt qu'elle a, qu'elle a fait du droit et tout. Mais c'est la seule où, effectivement, la série ne nous répète pas toutes les deux minutes qu'en fait, elle est hyper sympa et que juste tous les trucs horribles qu'elle fait sont justifiés, quoi. Et bon, c'est un peu... Enfin, c'est pas génial, scandale.
C'est la seule qui réussit. Le seul personnage réussi, c'est elle, je pense.
Parce que, ouais, effectivement... Parce qu'elle a elle son label méchante.
Voilà.
C'est la grosse connasse, c'est-à-dire c'est la femme qui a, été, qui a épousé son mari parce qu'elle avait des motifs.
Ah, quoique, on a vu.
Et elle joue avec ses enfants, sa grossesse et tout. Donc là, vraiment, c'est.
Elle, c'est vraiment une grosse pourriture parce que Olivia et tout ça.
Petit truc, les
émotions. Elle joue juste avec un homme marié qui se trouve être le président des États-Unis. Bon.
Non, on a essayé de la creuser quand même, Mélie, avec son flashback.
Oui, oui, non, non, mais on la développe en saison 3. Ouais.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant psychologiquement, même si en discutant avec une amie américaine, apparemment, on n'avait pas du tout compris la même chose.
Ah bon ?
Ouais. Je sais pas, j'ai peut-être trop cherché à comprendre le mécanisme de Mélie, mais pour moi, c'était vraiment un flashback intéressant avec,
oui. Oui, moi, j'ai trouvé
avec son beau-père. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose qui avait été brisé en elle. Et que finalement, c'était une façon de montrer que
qu'elle avait tout.
Un peu pas le choix non plus.
Oui, c'est ça.
C'était...
si c'est qu'elle a tout sacrifié pour lui, donc voilà. Elle s'arrêtera pas là, quoi. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il faut faire.
Il y avait vraiment le côté victime aussi, genre... bon, bah... Si maintenant sa carrière politique ne marche pas, c'est comme si j'avais subi ce viol pour rien.
Rien.
J'adore, on se comprend.
Oui, je suis d'accord.
Oui. Bon, bah, tant qu'on est à détruire ce qu'on a aimé par exemple, The Good Wife.
Oui, non, mais oui. Non, mais bon.
Alors.
On va pas la détruire non plus, la bonne femme. On l'aime beaucoup.
Ça a été génial pendant 5 épisodes.
Oui,
mais vraiment,
vraiment
exceptionnel.
Exceptionnel.
Et c'est vrai qu'on pouvait craindre que la suite soit en dessous.
Et elle
pour l'instant, elle est en dessous. C'est pas nul pour autant, c'est à part deux trois trucs, mais c'est moins bien, voilà.
Il y a des petites facilités avec tous les gens, tous les clients qui veulent absolument Alicia. Elle finit toujours un petit peu par gagner.
Ouais, c'est ça, mais après
Will, même là, il n'arrivait pas à avoir le dessus sur elle.
Non, mais ça c'était bien pour lui.
Ouais,
c'était bien fait, mais au bout d'un moment, t'as l'impression que c'est toujours elle qui gagne. Un petit peu trop.
Ouais. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que je trouve que on pouvait craindre qu'en séparant les deux, leurs deux cabinets d'avocats, ils arrivent moins à gérer l'ensemble des personnages et leurs relations qui, effectivement, faisaient la force de la série. Et pour l'instant, ça se confirme un peu, puisque, bah, par exemple, Diane a quasiment disparu.
Non, Diane, on l'a jamais autant vue. Parce que Diane, on la voyait super rarement, hein, même dans les 4 dernières saisons.
On l'a jamais autant vue. Depuis 4 épisodes, on la voit plus. Hein.
Elle tape dans la main de Will et tout. Mais il y a des épisodes entiers où on la voyait pas en saison 3, en saison 2.
Non, mais effectivement.
Oui, on l'avait jamais vue.
C'est maintenant qu'il y a la barre.
Je sais pas. Enfin, son intrigue, là, c'est de se méfier de l'espèce d'Irlandais que Will a embauché.
Ils comprennent
pourquoi au bout d'une demi-seconde. Mais disons qu'en tout cas, il n'y a plus de relation. Moi, ce que j'aimais bien, c'était Diane et Alicia qui, pendant, ils avaient un échange de 5 secondes. Mais en même temps, ça avait un impact. C'était intéressant. Là, on a vraiment, pour l'instant, ils ont un peu de mal et c'est un petit peu artificiel à remettre les personnages dans une même pièce. Je pense qu'ils ont beaucoup donné au début et qu'ils ont besoin peut-être d'une petite pause avant que ça reparte.
Ouais.
Parce que Carrie est ignorée.
Kalinda a disparu.
Voilà.
Enfin non, elle n'a pas disparu, elle a une intrigue de Kalinda. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on essaie de nous forcer le personnage de Mélissa George et à côté, c'est Carrie qui en pâtit. Enfin, pas forcément ces deux-là, mais il y en a certains qui en pâtissent comme Carrie, alors que Mélissa George, on essaye un peu de nous la pousser avec ses trucs... de femme enceinte.
Je sais pas pourquoi ils nous ont mis Mélissa George, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ce personnage.
Moi j'attends de comprendre parce que je me dis il peut pas être juste là.
Il y a quelque chose avec elle.
Il va se passer un truc à mon avis. Mais c'est vrai que j'ai beau aimer Mélissa George, je commence à être un peu sceptique. Et Eli Gold, il faut qu'il le vire de la série, c'est oui. vraiment plus possible. Ouais. Je ne supporte plus aucune de ses intrigues.
Il n'est pas crédible en plus de ouais. dans son rôle.
Et c'est le seul personnage où en fait il est mauvais dans ce qu'il oui. fait mmh. et on oui. dit qu'il est bon. Parce que tous les autres personnages de la série
sont Coupe, quoi. Ouais. Oui.
Et ben, c'est un peu fatigant.
Oui.
Mais à côté de ça, moi je garde une confiance gigantesque dans la série.
Ah oui,
elle a prouvé plein de fois que. Voilà, il peut avoir des ratés, le mari de Kalinda, ce genre de choses. Et c'est pas si grave.
Non, c'est clair.
Et au bout de 100 épisodes, faire les 5 épisodes qu'on a vus en début de saison 5, c'était. Oui. C'était un vrai plaisir oui. de sériephile, de sériephilie. De... Oui. C'était exceptionnel.
Oui.
Ouais. C'était.
Moi, ce qui me manque le plus dans cette nouvelle configuration, en fait, ce sont les procès. Mmh. Puisque les procès, maintenant, se focalisent beaucoup plus sur la stratégie. Mmh. Et il y a moins de fond, mmh. Moins de thèmes d'actualité abordés. J'ai l'impression, bon, après, ça fait trop 4 épisodes.
Et puis surtout, moi, ce que j'aimais bien dans les procès, c'est qu'ils avaient quand même réussi à créer des seconds rôles qui apparaissaient 2-3 fois par saison et qu'on avait toujours plaisir à revoir. Et là, ben, pour l'instant, ils sont un peu bloqués par cette configuration qui fait qu'il faut que ce soit Kerry et Alicia contre leurs anciens boss qui, pour une raison qui m'échappe, ont recruté un nouveau personnage plutôt qu'un des nombreux avocats qui traînaient dans le fond de la série.
Non, mais je comprends pas.
J'espère qu'ils réussiront à rétablir l'équilibre.
Ils étaient quand même dans la merde financièrement il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est la reprise aux États-Unis.
Ils ont perdu Shunham, qui était leur plus gros client. Et on ne parle pas de problèmes financiers. Mmh. Ils ont racheté des bureaux à New York. Ils embauchent un gars en partenaire. Enfin, j'avoue, je trouve que il y a un manque de logique. Et j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que tout aille bien chez Loca.
Mais peut-être que tout va pas bien. Peut-être que c'est lié. Peut-être que c'est Will qui compense. Enfin, je sais pas. Peut-être parce que le personnage de Will est quand même le personnage. Enfin, qui s'en sort le mieux de cette saison. Enfin, la trahison. Moi, j'ai adoré dans le dernier épisode.
Sa scène dans sa tête.
La scène dans sa tête.
Oui,
le moment où le gars, il est trahi. Et, ben,
il arrive pas à
s'enlever ça de la tête. Ouais, il arrive pas. Il sait qu'il doit le faire. Oui. Enfin, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, même d'un point de vue de mise en scène.
Oui.
Enfin, c'est. C'est vraiment des jolies choses qui sont montrées sur une série de network qui fait 22 épisodes par an.
Oui, tout à fait.
Ouais, t'inquiète pas, The Good Wife, tu vas finir en tête du top de cette année.
Faut qu'on s'en occupe aussi.
Ah oui.
J'ai déjà fait mes notes.
C'est vrai. Oh là là.
Moi aussi, je sais faire à mesure et tout, de façon complètement rigide. Et ou alors, non, la seule qui pourrait dépasser The Good Wife, c'est Orange is the New Black.
Ah oui.
Il est probable que faut voir. Tu l'as vu, Blackie?
C'est un peu moi qui ai écrit l'article dessus.
Ah oui, c'est vrai. Mais comme c'est, je me disais peut-être elle l'a pas vu, elle mettra une mauvaise note.
Je sais pas si je lui mettrai une meilleure note. Je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que ce serait Mad Men qui aura la meilleure note pour moi. Orange is the New Black, c'était très bon.
C'est quoi le problème?
J'ai adoré, mais je la jugerai pas de la même façon que les autres.
Et
pourquoi?
Parce que c'est sa première saison, parce que elle a eu un peu de mal à démarrer aussi.
Moi j'étais dedans.
Je ne sais pas qui va finir en premier du classement, mais je juge différemment. Au bout de 5-6 saisons, si une série arrive toujours à être aussi formidable, j'ai envie de lui donner un peu plus de mérite.
Mais moi j'ai envie de donner un A+, rien que pour l'effort. Quoi. Rien que pour avoir fait un cast féminin avec des personnages, avec une transsexuelle.
Et puis surtout, c'est une série qui pourrait effectivement être faite pour l'effort d'un cast féminin, des choses comme ça, mais c'est jamais didactique. Quoi. Enfin,
oui.
C'est pas Witch of the East End où il n'y a que des femmes, et puis où elle parle mariage et vêtements.
American Horror Story, il y a quasiment des femmes aussi.
Ouais, c'est nul.
Et ça, elle parle pas non plus les livres.
Mais effectivement, Orange is the New Black. Non, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est la gestion de quoi 15 personnages principaux.
Oui.
Et t'as jamais l'impression qu'il y a quelqu'un qui est laissé de côté,
oui.
Même si les gens apparaissent pas, ont pas un temps d'antenne complètement équilibré, etc. Mais toujours, t'as l'impression qu'il y a une attention des scénaristes à tout le monde dans. Ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est l'arrière-plan.
Oui, c'est ça.
Tu sens que ça vit derrière. T'as l'impression que
les intrigues continuent. À la fin de la saison, hein, tu connais les personnages. Ouais. T'as l'impression de les connaître.
En même temps, le fait d'avoir recours aux flashbacks sur chacune, à chaque épisode,
oui,
ça aide beaucoup.
Hein.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de flashbacks et qui ne sont pas les personnages les moins intéressants ou les moins marquants, je trouve, de la saison.
Et je trouve quand même que l'utilisation des flashbacks assez réussie. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment didactique. Ça éclaire une toute petite partie.
Ah oui, c'est pas l'os.
On ne sait pas pourquoi. C'est pas le flashback qui va expliquer pourquoi elle a fini en prison, qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais.
Alors, effectivement, que c'est en rapport avec ce qui est en train de se passer dans l'épisode. Mm-hmm. Mais parce que c'est aussi pour montrer que les femmes en prison. Enfin, je trouve ça aussi assez futé. Ça nous permet aussi de se rendre compte que ce n'est pas juste des femmes en prison.
Oui,
qu'avant d'être en prison,
J'étais assez sceptique sur les flashbacks au début de la série parce que je les trouvais justement un petit peu didactiques et je trouve qu'ils ont bien réussi à éviter l'écueil sur le long terme et d'ailleurs à ne pas nous faire des flashbacks. Enfin, je pense qu'il y a des personnages, ils ne leur ont pas fait de flashbacks parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'intéressant à dire sur leur vie avant la prison. Et... c'est vrai qu'effectivement, après passer 4-5 épisodes, je trouvais que ça fonctionnait très bien, au final.
Mais effectivement, il va falloir voir ce que ça va donner en saison 2. Est-ce que ça...
J'espère juste que le départ de Laura Prepon ne va pas un peu casser certaines choses, parce que...
Elle n'est pas indispensable, hein. Elle a un rôle... Elle est bien,
mais... même
Piper,
elle n'est pas indispensable.
Elle a...
Non,
c'est sûr. Laura Prepon est peut-être... son personnage est peut-être le plus caricatural de toutes, je trouve.
Non.
Oh, le côté super espionne, lesbienne, machin... C'est un peu
du... Tu connais beaucoup de super espionnes lesbiennes.
mais justement, ça fait un peu la super-héros qui est coincée dans une prison de femmes. C'est la femme forte au mauvais sens du terme.
Mais elle n'est pas si forte que ça, justement.
Oui, parce que son petit cœur a été cassé. Mais
Le flashback sur elle, il était vraiment pourri, par exemple.
Je ne suis pas d'accord.
Quand elle va voir son père, c'était ce qu'il y a de plus faible dans la série. Même si on est tellement attaché à tout ce petit monde que.
Non, mais ce qu'elle apportait dans la prison, c'est que. C'est celle qui connaissait Piper en dehors de la prison également, celle qui la connaissait mieux et donc qui pouvait lui dire arrête tes conneries là-bas, t'es vraiment qu'une façade, t'es fausse. Et j'aimais bien ce rapport qu'elle avait avec elle.
Oui.
Elle la remettait en place. Si c'est pour donner plus d'importance au personnage de son fiancé qui est absolument insupportable, joué par Jason Biggs qui est juste horrible. Il est juste mauvais.
Ben non.
Il joue bien.
Son regard fuit à chaque fois, vous n'avez pas remarqué ? Il a toujours le regard fuyant.
Le personnage.
C'est le personnage. Alors clairement.
Non, c'est l'acteur aussi.
Clairement, il est affreux, mais c'est parce que ce couple.
Est affreux.
Non, parce que quand même, ils vont marcher bio, ils font des crunchs, machin, ils habitent une jolie maison. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dans lesquelles on peut se retrouver en jeu. Mais j'ai adoré toute l'histoire du fiancé qui justement vit sa vie aussi, elle est chamboulée à lui, mais
je lève les yeux au ciel, vous n'avez pas vu, mais j'ai levé les yeux au ciel de façon
mais non, mais c'est parce que c'est un homme, ce serait un couple de femmes, celle qui reste en dehors de la prison à sa vie chamboulée.
Sa vie n'est pas chamboulée.
Enfin, c'est difficile aussi pour les gens qui connaissent quelqu'un en prison. Comment vivre sa vie en même temps.
Et lui, il le gère mal, de la même façon égocentrique et autocentrée que sa femme l'aurait géré. C'était passé de la façon inverse. Et mais j'ai l'impression en plus que. Il est affreux, c'est un pleurnichard, il essaye de. C'est quand même tout ce qu'on reprocherait à une femme si elle se comportait de la même façon.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ils inversaient vous.
Et c'est pas son.
Tu vois, ce serait Skyler, ce serait Anna Gunn et Walter White en prison et Anna Gunn qui gendrait parce que. Oh là là, c'est mais pour dur. Moi aussi c'est dur. je vais écrire mes sentiments, je vais en faire une émission de radio parce que mon article va être publié. Mais.
Oui, c'est vrai.
Et moi j'aime bien.
On n'oserait pas râler dessus ou râler sur le personnage non. Si c'était une femme.
Non, mais c'est effectivement, on n'est pas dans le cliché, on n'est pas sur le personnage masculin qui est là pour soutenir sa femme et qui lui apporte la force
oui.
Nécessaire.
Ah oui, non, mais
il
c'est
est plutôt, au contraire, une source de vulnérabilité, de faiblesse pour elle, en fait. Mm. Enfin,
c'est pas tellement ce qu'il vit sur son côté qui m'énerve, parce que je trouve ça intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là. C'est plus ses rapports avec Piper, la façon dont ils se parlent l'un et l'autre, ou... Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se briser et je trouve ça intéressant, mais j'ai pas envie que le fait que Laura Prepon parte de la série fasse qu'on va les forcer à se rapprocher. C'est ça que je crains un peu. J'ai peur qu'on essaie de trop l'intégrer, qu'il soit finalement plus que le dernier.
Non, mais moi je vois pas comment elle pourra retourner avec lui une fois qu'il sera sorti.
Mais surtout que moi j'ai l'impression qu'on nous a dit que ce couple-là était un couple qui fonctionnait pas.
Oui. Ouais. Moi aussi, c'est
elle est quand même aussi un peu avec lui parce que quand elle a eu 30 ans, elle s'est dit
pour faire des gars.
J'ai envie une petite vie tranquille, rangée. Il n'y a pas de jugement, mais et lui, en gros, ils sont contents de la vie qu'ils avaient et ils se rendent compte que quand ils l'ont plus,
heureux,
ils n'étaient pas heureux.
C'est ça.
C'est pas un couple qui était heureux et c'est pas j'ai pas l'impression qu'il se manque. On nous montre pas qu'il se manque énormément.
Surtout,
c'est la situation. Ils s'utilisent comme ils s'utilisaient quand ils étaient en couple pour avoir cette impression de vie normale et heureuse. Je trouve ça.
Assez... Ouais. Et puis, lui, on voit qu'il reste avec elle uniquement parce qu'il se sent obligé de pas quitter sa femme en prison, mais il a pas l'air effectivement vraiment amoureux d'elle ou c'est.
Le problème, c'est mais quand on a l'histoire vraie derrière...
Je comprends ton inquiétude qui réoriente justement pour suivre l'histoire vraie ou sur pression du... Mais je pense pas qu'ils vont commettre cette erreur.
Ah oui, parce que toi, tu sais ce qui se passe après. T'as lu le bouquin?
Non, je l'ai pas lu. J'ai juste une amie qui l'a lu. Mais la vraie Piper est restée avec lui. Je sais pas si elle a fini par l'épouser, mais elle est restée avec lui assez longtemps. Donc voilà, je m'inquiète un peu de la façon dont ils vont réorienter tout ça, parce que le fait que Laura Prepon parte en plus n'était pas prévu au départ.
Mais apparemment,
elle part pas vraiment.
Elle
va être peu présente en saison 2. Je crois
qu'elle a 2 épisodes pour dire au revoir, quelque chose comme ça.
Ou 4, et apparemment, elle peut revenir en fin de saison. Enfin, c'est,
D'accord.
Et après, on sait jamais bien, là, ces histoires de contrat et tout.
C'est la scientologie.
Parce qu'elle est scientologue.
Oui. Elle sort avec Tom Cruise maintenant.
Hein?
Non.
Tu te fous de moi.
Non, c'est vrai. Ouais.
Mais tu vois, moi j'ai du mal à dire du mal de la scientologie maintenant que je sais qu'Elizabeth Moss est scientologue.
Non, elle n'est pas.
Si.
Elle n'est pas?
Bien sûr que si. C'est pour ça qu'elle a divorcé. Ça vire au gossip.
Et ouais.
Il me semblait qu'elle en était sortie justement. Bon, bref.
Non, t'en sors pas facilement. Regarde Lia Rémini.
Ah oui, elle. Et la femme de Will Smith aussi, celle-là.
Et Will Smith, il est scientologue aussi
oui.
Enfin, il est sympathique.
Ouais, sa femme l'est à fond les ballons. Hein.
Ah ouais.
Oui.
cherchons d'autres séries dont on pourrait parler de façon positive. Agent of S.H.I.E.L.D. apparemment, ça va pas être possible.
Non.
Masters of Sex.
C'est pas mal.
C'est une série pour laquelle on va avoir de l'indulgence parce que justement il y a du fond.
Oui. Le souci c'est le personnage de Masters qui est insupportable. Enfin non, c'est pas qu'il est insupportable, c'est qu'on peut pas l'aimer du tout.
On essaie vraiment beaucoup de nous vendre leur histoire d'amour grandissante puisqu'on sait qu'ils vont se marier.
Oui. Sauf que ça marche pas parce que je ne vois pas comment elle peut tomber amoureuse de lui, ce n'est pas possible.
On comprend son obsession à lui, ça c'est plutôt intéressant parce qu'il a vraiment des soucis mentaux et sexuels. Donc on comprend sa fascination pour Virginia, mais elle, mis à part qu'elle pense qu'il est un génie et qu'il y a juste une fascination à ce niveau-là, mais
Mais le problème, oui, c'est pas tant Masters que l'écriture du personnage de Virginia, qui est un personnage écrit comme une femme des années 2000.
Hyper moderne.
C'est clairement, on a l'impression de regarder Doctor Who, elle viendrait de 2010.
Oui, c'est ça.
Et puis elle est là. Non, c'est Code Quantum en fait.
C'est ça.
C'est Sam Beckett qui est coincé dans le corps d'une femme et qui dit mais c'est pas possible. Moi je vais vouloir faire des études quand même. Je suis c'est tout le monde.
Sans aucune conséquence parce que bon, c'est bien.
Et, cool. Et je trouve que justement c'est un peu le problème de la série, alors que je trouve que le couple
du Provo oui, Alison Janney
et de sa femme,
ah, ils sont fabuleux, hein.
Et même de son amant à elle,
oui.
Dublon,
oui.
Eux justement sont bien historiquement cohérents,
oui.
Et que leurs réactions sont pas des réactions de gens de 2010 par rapport à la situation de 1950, mais des gens de 1950 qui se rendent compte que bah peut-être ce qu'ils ont toujours connu est pas immuable et peut évoluer un petit peu dans une certaine mesure.
Oui, c'est pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté cohérent avec l'histoire. Mais aussi, là, ils sont juste très bien écrits. Enfin, on arrive bien à comprendre leurs soucis, tout ce qui les bloque. Par exemple, le jeune docteur, qui lui aussi est dans son époque et qui finit, oui, par sortir avec... à se fiancer avec la fille du Provo. Tous les deux aussi sont bien dans leur époque, mais c'est vrai que leur histoire était beaucoup moins intéressante. Il y avait juste... c'était un peu plat. Et pour moi, c'est le problème de la série, c'est qu'ils ont des personnages magnifiquement bien écrits. Mm. Vraiment, vraiment prenant émotionnellement,
ouais.
Et d'autres qui ne marchent pas. Donc c'est vraiment à 50-50 cette série.
Et il y a un souci avec la gestion du temps.
Oui, ah oui,
on
ne
sait pas.
Complètement...
C'est un peu comme Breaking Bad. Hein. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre chaque épisode. Oui. Apparemment, il s'est déjà passé un an.
Bah oui, un an, parce qu'elle a eu le temps de tomber enceinte, de perdre son gamin, de retomber enceinte.
Et là, elle est au cinquième mois.
Oui, donc oui, de bien.
Et pour l'étude aussi, enfin, ils ont, oui, besoin de beaucoup de temps. La relation entre Masters et Johnson, elle a l'impression qu'elle prend un ou deux mois entre chaque épisode. Et effectivement, les personnages secondaires, eux, sont dans des intrigues qui devraient s'écouler sur une quinzaine de jours, un mois. C'est assez...
oui, c'est très mal.
Ça peut être un peu gênant. Mais j'ai beaucoup d'affection pour cette série parce qu'elle essaye de...
Eh ben, elle a un discours,
bah,
elle
essaie de dire des choses différentes que ce qu'on voit d'habitude.
La médecin, celle qui chercheuse sur le cancer du col de l'utérus, elle est fabuleuse.
Juliana,
oui,
Nicholson,
oui,
qui est exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait, en fait.
Oui.
Puisque dans Boardwalk Empire, qui était cette saison 4, elle est magnifique.
Ah,
C'est...
Non,
on la voit à 4 secondes. Mais les deux premières saisons, c'était vraiment tout pourri. Ce coquille vide, la fascination des scénaristes pour leurs personnages de gangsters, des histoires de gangsters incompréhensibles. Et puis au fur et à mesure, en fait, il reste que les personnages périphériques. Et ça se ressent sur l'intime de ces personnages, les situations de gangsters finalement plus trop d'importance que ça.
Mmh.
Et ça devient vraiment une série déchirante, super bien écrite. Enfin, c'est vraiment très 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 chouette.
Bon.
En gros, ça s'améliore au milieu de la troisième saison.
J'aurais jamais eu le courage de regarder trois saisons.
J'ai regardé la saison 3 en entier, ça m'avait pas plu. J'avais adoré la 2, la 3 avec l'autre tar italien.
Le souci de la 3, c'est son final. Ouais. C'est où, ben là, d'un seul coup, toutes les intrigues convergent formidablement bien pour arriver à un final explosif. Il n'y a pas en saison 4, le final, il n'est pas tout plat. Parce qu'il se passe plein de choses du point de vue des personnages qui sont dans des situations terribles. Mais c'est pas quelque chose de mécanique. Là, c'est, enfin, vraiment, cette saison de Boardwalk Empire. Et puis, il y a Patricia Arquette qui est formidable. Mais justement, Parfois, il faut être un fan complètement taré pour se taper deux saisons et demie d'une série que tu détestes.
C'est ça. C'est ça.
Mais voilà, la récompense, elle est plutôt... Ouais, peut-être que ce sera l'une des séries que je noterai le mieux cette saison. Rectify, on en dit un mot, parce que bon, là aussi, on fait depuis dans 2013, tout ça.
Oui, et puis on n'en a jamais parlé.
Rectify, c'était cet été ou c'était...
C'était cet été, ouais.
On était dans le tableau précédent, c'était assez bien placé, je crois, non ?
Je crois pas qu'il était placé, je crois que c'est quelqu'un qui l'a mis dans ses séries préférées, mais... Ou alors il n'était pas dans le tableau parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui voulait.
Si, je pense qu'il était dans le tableau.
Bon, regarde. Si, parce que moi je regarde, toi tu regardes et je regarde.
Ouais.
On était trois.
Non, mais putain, Bah, moi, c'est la... ça fait partie des séries comme je n'avais rien à regarder à la rentrée, que j'avais réussi à arrêter Vampire Diaries. Bah, j'ai échangé contre Rectify, qui a que 6 épisodes et qui est beaucoup mieux. Donc, c'était à mon avantage.
Tu l'as gagné.
J'étais un tout petit peu surpris, mais j'en ai déjà peut-être parlé parce que, effectivement, j'avais lu la critique de GG qui disait que c'était une série lumineuse, pas du tout plombante, malgré son thème et tout. J'ai regardé les deux derniers épisodes un vendredi soir, j'avais juste envie de mourir après la fin. Mais c'est vraiment très bien. Effectivement,
ah oui, c'est lumineux, oui.
Et effectivement, je trouve que c'est une. Enfin, c'est le décalage entre la manière dont c'est filmé et ce que ça raconte est intéressant parce qu'on sent qu'il est voulu et il y a des images qui sont sublimes dans la série. Mais c'est vraiment
c'est
bien.
C'est sublime sans être
décoratif.
Voilà, comme dans Breaking Bad où t'as l'impression qu'ils font des efforts pour dire regardez comme c'est beau les plans qu'on fait. Regardez. Dans Rectify, non, c'est juste.
Non, c'est pas prétentieux.
C'est pas prétentieux, voilà.
Je trouve 6 épisodes, c'est un petit peu court pour se faire un vrai avis sur le potentiel de la série, malheureusement, mais je trouve ça très réussi. Le seul truc qui me manque, enfin, je trouve ça intéressant qu'il conserve une ambiguïté sur est-ce qu'il est coupable ou pas, et en même temps, j'ai peur que ça devienne un peu lourd dans la suite de la série, mais sinon, c'est vraiment bien, c'est fin et ça va jamais dans la direction qu'on attend en plus.
Oui, est-ce que c'est une série qui peut avoir 50 épisodes ? Je suis pas sûr.
Non, je suis pas sûr, non.
Il faudrait voir la deuxième saison de 10 épisodes et emballer ses pesées, on passe à autre chose.
C'est vraiment sur le retour à la vie après avoir été condamné à mort. Oui. Bon, c'est vrai que moi j'ai regardé la série avec un regard sûrement différent, puisque vous savez que j'étais un peu obsédée par une série de documentaires.
Oui.
Qui avait pris 20 ans. Et c'est vrai que le personnage de Daniel était très très proche de l'un de ces hommes
qui a été libéré depuis. Donc ce sont des hommes accusés à tort, c'est ça ?
Oui, mais c'est vrai que ça a mis des années pour plus ou moins prouver qu'ils avaient été accusés à tort. Et encore, alors aujourd'hui, ils sont libérés, mais c'est exactement la même chose que dans la série, c'est-à-dire il y a eu un accord avec les avocats qui est un peu ambigu. Tu dis que tu es coupable et tu peux sortir parce que tu as déjà subi quelques années de prison. Mais en même temps, comme tu dis que tu es coupable, l'enquête ne peut pas
se relancer
et découvrir qui a vraiment été. Okay. Donc, c'est vraiment c'est une position difficile et on n'aura jamais vraiment le fin mot. Et c'est vrai que.
C'est l'affaire Sesnek américaine, quoi.
C'est vrai que la Rectify était vraiment. Enfin, on sentait qu'ils s'étaient vraiment bien documentés sur le traumatisme que ces gens-là subissent, puisqu'ils sont condamnés à mort. Ils pensent vraiment que ça y est, c'est la fin. Pendant des années, tu te dis, bon, est-ce que la fin arrive ? Et puis finalement, ils retournent à la vie, ils s'y attendaient pas.
Ouais.
Pareil pour leur famille. Enfin, c'est vraiment très, très juste.
Oui.
Mais c'est pas ce que j'avais voulu dire quand c'était lumineux, pas plombant, c'est qu'il n'y a pas justement cette esthétique misérabiliste et il n'y a pas ce côté. On sait qu'on est en train d'écrire quelque chose d'important, de sérieux, de terriblement lourd. C'est ce que vous disiez quand c'est pas prétentieux, c'est-à-dire que c'est. Il y a un ton juste. C'est aussi une série télé, c'est aussi. C'est pas un pensum.
C'est pas un plaidoyer contre la peine de mort.
Ils sont plutôt délicats avec leurs personnages.
Oui.
Et c'est vrai.
Beaucoup de monde.
Et le personnage de la blonde, la croyante qui...
Elle est bien.
Globalement, ce type de personnage, moi, devrait m'horripiler au millième degré.
Mais moi aussi, c'est pareil. La croyante hyper chiante qui te parle de Jésus...
Toutes les deux secondes.
Toutes les deux secondes. Et ben, elle arrive à être touchante. Hein. Ouais. Et c'est finalement la seule qui le traite avec... qui le traite en égal.
Et à son mari, il est horrible.
Il est assez affreux.
En parlant de peine de mort, on a oublié de parler d'une série qui risque d'être bien classée.
The Killing,
c'est la saison 3 de The Killing. Oh,
j'ai adoré. Hein.
T'as vu. Il paraît que c'était bien.
Ah, mais regardez.
Je l'ai
là.
Vu, donc c'est bon, ce sera
bien. On est obligé de regarder.
Non, non. Moi, j'avais pas vu la saison 2 parce que ça m'avait énervé la fin de la saison 1. On a attaqué par la saison 3 et franchement, c'était génial.
Faudrait que je regarde. Mais j'avais l'impression que ça ressemblait à Top of the Lake dans l'intrigue, donc j'ai pas
regardé.
Oui, il y a encore.
Oui, c'est glauque. Hein.
C'est glauque, c'est des adolescentes
qui
sont des victimes. Mais au contraire de la première saison. Il y a un effort qui est fait pendant le tiers ou la moitié des épisodes pour te montrer le groupe des potentielles victimes. Donc tu suis ce que c'est, enfin tu suis un groupe de jeunes filles SDF en fait. Et justement ça donne une ampleur tragique aux crimes qui sont commis. Qui est rare dans les séries policières où effectivement ce qui est important c'est l'identité du méchant et les conséquences que ça peut avoir sur la vie professionnelle des enquêteurs. Là, il y a aussi le côté qu'on voit rarement qui est celui des victimes
et des victimes
dont on n'a rien à faire.
Personne n'en
fait.
A rien à foutre quoi. C'était la société,
qui est,
les
qui
gens.
Assez chouette, c'est que souvent dans les séries judiciaires ou policières. Il y a une grande enquête qui est menée parce que la fille du gouverneur a été kidnappée, etc. Tout s'arrête. Là, c'est des gens, les victimes sont des gens qui n'ont pas d'importance, qui sont des gens invisibles. Et c'est vraiment très, très chouette. Et même le final, qui est un petit peu artificiel, arrive à lier l'ensemble de façon vraiment satisfaisante. C'était vraiment une énorme réussite. Et je suis très content qu'il y ait une quatrième saison.
Ah oui?
Mais oui, la série va ressusciter pour une quatrième saison.
Ah, mais ça, c'est la bonne nouvelle.
De 6 épisodes seulement sur Netflix. Ah. Je sais pas ce que ça peut donner, mais pourquoi pas, quoi. Tant qu'à faire, pourquoi pas celle-ci?
Oh oui, je serais ravie de retrouver mon petit chouchou.
Il est super. Comment c'est, Boulder? Non.
Comment il s'appelle? Holden.
Holden.
Oh.
Tu vas aller voir Robocop juste pour lui.
Il est dans Robocop. Ouais.
C'est lui qui va jouer dans le nouveau Robocop.
C'est vrai.
Mais oui.
Oh boy.
Ah bah tiens, Robocop, Almost Human. On fait des transitions de malade. Et puis après, on fera un petit point sur les séries que vous devez rattraper ou redécouvrir.
Ah oui, les séries. Non, c'est les séries vers lesquelles on peut se tourner quand on n'a rien à regarder.
Voilà, comme vous avez à peu près détruit tout ce qu'il y a à la télé actuellement, effectivement, vous n'allez pas tenir beaucoup avec The Good Wife et les 6 épisodes de Rectifier.
Voilà. Et la saison 3 de The Killing, ça fait...
Et Blackie vous dira Almost Human et Sleepy Hollow, quoi.
Non, pas Almost Human.
Non, t'adore. Ça te touche pas, cette histoire de robot qui est finalement plus humain que les humains?
Non, vu le peu qu'on nous en dit là-dessus, c'est pas comme si le discours était très profond. Il râle pendant Karl Urban, son personnage n'aime pas les robots.
Lui, apparemment, il est connu. Il a joué dans quoi?
Non, mais il a joué
Le Seigneur des Anneaux.
Oui, il est connu dans le monde des films.
Parce que j'ai entendu des podcasts, machin, et tout le monde disait ah là là, il y a Karl Urban, machin, formidable dans ce quoi. Et tu dis, mais c'est qui ce type?
T'as pas vu Star Trek par J.J. Abrams?
Excuse-moi. Dans la suite de Pitch Black.
Ouais. Ben, c'est Bones, le docteur.
C'est qui le docteur?
Moi, dans Star Trek, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une bombasse, il y a une seule fille. Et puis tout ce qu'on voit, c'est ses seins et puis c'est tout. Oui. C'est ça, un Star Trek, le film.
Le deuxième, oui, c'est ça.
Ah, je ne regarderai pas cette daube. Je refuse.
Non, le premier reboot est fun.
Ok.
Après, vous aimez pas Star Trek.
Ah non, mais... Bref.
Bon, bref, il
mais
Home of
Thrones, ça pourrait être hyper intéressant sur...
Non, mais une vraie série d'anticipation, ça pourrait être vraiment fun, quoi. Un truc qui pose justement les questions de...
La liberté. Il y avait le deuxième épisode est sur les robots prostitués. Et je me disais, ça peut être... il peut y avoir quelque chose, mais en fait, c'est pas du tout traité dans l'épisode. Mais effectivement...
Ils n'ont même pas établi l'univers déjà dans lequel
Mais non, ils prennent un peu de tout. Alors, ils prennent un peu de Blade Runner, ils prennent un peu de... Ah, ça s'est monté de près.
C'est Archer. c'est le principe du film iRobot, où tu as un flic qui n'aime pas les robots, est obligé de s'associer à un robot pour découvrir qui a commis des meurtres. C'est le même principe de départ. Ce qu'il y a, c'est que cette série-là, pour l'instant en tout cas, c'est juste... C'est juste une formule, c'est comme dans les années 80 où
c'est exactement
tu as
ça.
Deux flics qui vont avoir une nouvelle enquête chaque semaine et puis ils se lancent des vannes dans la voiture.
Ouch, machin et Turner
ouch. Turner
et ouch, c'est ça.
C'est un chien, quoi. Ou, comme un tandem de choc,
c'est ça.
L'américain et le canadien, quoi.
C'est ça. Non, mais c'est exactement ça, t'as l'impression de revenir 20 ans en arrière, quoi.
Oui, mais notre discours, c'est 20 ans en arrière, c'était mieux.
Ouais,
oui.
Sauf qu'il y a des jolis gadgets. Et...
ouais.
Donc, on sait jamais, hein, il peut en faire quelque chose de bien par la suite. Mais
pour c'est bon, explique-nous ton obsession pour Sleepy Hollow. Vas-y.
C'est pas une obsession, c'est juste une série très sympathique. De fantastique, comme effectivement, jusqu'à maintenant, c'était la CW qui nous fournissait plus que ça. Sauf que là, bon, bah, on a heureusement...
C'est quand même mieux ce qui se passe sur la CW que Sleepy Hollow.
Non, parce que Sleepy Hollow, on n'a pas des adolescents qui ont tout le temps envie de se sauter dessus. On est à fond sur les histoires fantastiques et des gens qui n'ont que ce but, résoudre les énigmes. Et t'as pas ce côté immature. C'est vrai que la relation de Crane et de...
Et que pas de Crane. La série, elle tient uniquement par l'acteur.
Non,
parce qu'il a un accent anglais.
Parce qu'il a un accent anglais.
Le personnage de Nicole Beharie est vraiment bien. Et c'est vrai que
c'est-à-dire, elle est noire.
Non, c'est une femme intelligente, compétente.
Ouais.
C'est vrai qu'en plus de ça, on a sa sœur qui est introduite dans l'histoire, qui, elle, combat les démons depuis longtemps et avait été enfermée dans l'asile. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a des fois... Toi qui t'adorerais ça, là, toi qui râlais sur la façon dont les femmes étaient traitées dans les pilotes,
oui.
Ça s'est vraiment amélioré. Il y a un moment, c'est Cabot Crane qui est kidnappée dès le début de l'épisode. T'as les deux sœurs qui font « Allez, viens, on va sauver le beau gosse
ouais. ».
C'est vraiment, c'est non, les femmes qui vont le sauver. Ou t'as même des petits discours par-ci, par-là. Quand t'as des triangles amoureux, par exemple, avec la femme d'Cabot Crane, dans un flashback...
Katrina.
C'est voilà avec Katrina. C'est oh si tu me choisis moi et pas lui, elle fait oh calme-toi deux secondes. Oui je te choisis toi mais c'est parce que c'est ma vie, j'ai pas envie de me faire chier avec lui. T'as des petits trucs comme ça de la part des personnages féminins qui finalement sont bien plus fortes et bien mieux développées que les hommes.
D'accord. Mais et moi mon problème c'est que ce sont tous les à côté de la série, c'est-à-dire c'est quoi 10% de l'épisode. Et 90% c'est une espèce de quête, on ne comprend rien, avec un Moloch qui a... Je sais pas quoi. C'est quoi l'histoire ?
Le démon qui est le vilain qu'il faut combattre. Le cavalier de l'apocalypse, finalement, le cavalier sans tête...
Mais il a trois copains,
c'est des
sous-fifres.
Oui, bah, c'est ça.
C'est
parce qu'ils sont censés arriver après, mais... Faut en gros arrêter d'abord le cavalier sans tête parce que c'est juste un sous-fifre. Tu as le grand démon, le grand vilain qui a kidnappé l'âme de sa femme et puis c'est celui qu'il faut arrêter. Et toutes leurs histoires, le vilain de la semaine finalement à chaque fois les conduit à découvrir d'autres éléments qui vont les aider à combattre le méchant. C'est comme la plupart des séries fantastiques, tu as exactement le même style de schéma. Hein.
Ben, mais
ça fonctionne de la même façon. Sauf que effectivement le vilain de la semaine à chaque fois est lié à l'intrigue principale et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Il n'y a pas de temps mort, vraiment on se fait pas chier, t'as pas des histoires d'amour à côté qui vont plomber tout le truc. T'es dans du pur fantastique, tu cherches pas. Et pour moi, ça fonctionne. C'est vrai que t'as des petites touches humoristiques ici et là. T'as un couple qui fonctionne complètement sur l'amitié. Mulder et Scully, c'est vrai qu'on a essayé de nous les mettre ensemble pendant longtemps. Et là, au moins, tu te dis, le mec, il est marié, ça ne se fera pas. Non, il reste vraiment, t'as vraiment un partenariat
avec quelqu'un. Les hommes mariés ne peuvent pas coucher avec d'autres femmes.
Disons que la façon romantique dont on nous vend son mariage.
Moi, j'ai un peu de mal aussi avec le personnage d'Ichabod Crane. C'est le gentilhomme, c'est-à-dire, c'est quand même la glorification de la bourgeoisie éclairée, l'aristocrate machin.
J'ai essayé de vendre cet argument à une amie américaine qui est également black, et ça la gênait pas, ce côté purement ah oui mais attends, il était contre l'esclavage et puis tous ses amis aussi, ils étaient tous hyper progressistes, ça la gênait pas. Elle disait bah non, à l'époque il y avait des gens qui étaient pas mauvais. Fait bon bah écoute, je vais rien dire. Hein, ça te concerne plus que moi, donc si ça te gêne pas, tant mieux.
Et qu'est-ce qu'elle pense d'American Horror Story?
Regarde pas, ça me fait peur. Mais oui, c'est une bonne façon d'enchaîner, vas-y.
Non, j'ai rien à dire, j'ai vu que 3 épisodes, c'était nul, j'ai arrêté. Voilà, c'est. Enfin, je pense que ceux qui ont vu la suite confirmeront que ça reste nul, j'imagine.
Non, pas nul. Juste très moyen.
D'accord.
Oui, là, pour le coup, c'est une série qui est. Ça me plaît assez, essentiellement parce que. Il y a des actrices formidables.
Oui, mais on dirait que Ryan Murphy, c'est assagi. Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'y habitue à son style.
C'est parce que c'est marié qu'il a eu un enfant.
Ah bon ?
Sérieux ?
Il y a un enfant qui va vivre chez lui.
Non, sérieux ?
Oui, mais c'est vrai qu'en saison 2, moi, ce que j'appréciais, c'est que ça partait vraiment dans tous les sens, mais d'une manière complètement absurde, mais du coup, c'était vraiment assez jouissif et assez étonnant de jamais savoir ce qui allait pouvoir se passer. Et là, le début de la saison 3, ce que j'en ai vu, bah, c'est quand même que des histoires de sorcières. Alors effectivement, il y a la sorcière Harry Potter, la sorcière Vaudou, la sorcière ceci, mais c'est pas la même chose qu'un asile psychiatrique avec des aliens, un tueur en série, l'exorciste. Et surtout, j'ai trouvé qu'en deuxième saison, ils avaient bien réussi à recaster des personnages dans des rôles assez différents. Et là, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est des personnages qui ressemblaient beaucoup à ceux que j'avais vus. Jessica Lange, qui fait à nouveau la méchante, comme en saison 1. Je ne sais pas comment s'appelle la petite jeune sorcière, l'héroïne. Peut-être. Je ne sais pas, celle qui était la gamine en saison 1, qui a un rôle qui ressemble beaucoup aussi. Et du coup, ça ne m'a pas passionné.
Oui, on sent que. C'est des fois, il a juste envie de garder les mêmes acteurs. Le personnage d'Evan Peters, qui finit en zombie. C'est inintéressant, il fait pas grand chose. Hein. Là, dans le dernier épisode, c'est devenu le chien de garde. Littéralement.
Moi, je trouve ça drôle.
Le chien meurt, donc il remplace le chien.
Moi, je trouve ça drôle. Pour le coup, ça, justement, c'est le petit côté un peu décalé, un peu étrange. C'est dans ces histoires de sorcières, t'as une espèce de zombie. Et sauf que les zombies, c'est chiant. Enfin, ça sert à rien, c'est capable de rien faire, ça fait que grogner. Et donc, t'as lui qui est là, qui fait que grogner, qui joue avec la hippa du gueule. Pour le coup, je trouve que c'est une touche humoristique assez réussie dans la série. Le personnage le moins réussi, c'est celui de Jessica Lange qui est tout discours sur les femmes, la vieillesse, blabla, c'est terrible, de plus être aussi belle et attirante. C'est un peu poussif. Mais l'histoire, je sais pas, oui, je pense que je suis un peu biaisé par. Je suis content de voir Kathy Bates, je suis content de voir des super actrices.
Ouais, le souci, c'est vraiment ça s'est apaisé. Enfin, les histoires de sorcières, le souci aussi, c'est que finalement, ils restent dans le classique. T'as les sorcières qui sont les deux clans ennemis, tu as aussi les chasseurs.
Les noirs et les blanches en plus. Enfin, moi, là où j'en suis resté, les sorcières noires, c'est la nature, et les sorcières blanches, c'est la civilisation.
C'est vrai ?
C'était un peu ça, non ? Les sorcières noires, elles avaient leur magie naturellement, et les méchantes sorcières blanches leur ont piqué la technique.
Mais non, t'as l'Otipi.
Bon, je sais pas.
Qui écoute Stevie Nicks. Merci, hein, merci de m'avoir dégoûté de Stevie Nicks à vie.
C'est qui Stevie Nicks?
De Fleetwood Mac, laisse tomber. C'est une chanteuse des années 70, notamment. Ouais. Effectivement, très hippie, hobo. Elle est restée dans son délire. Mais
elle va jouer dans la série, je crois.
Oui, elle a 2 épisodes, je crois. Super.
Oula.
Super.
Mais, oula.
C'est vrai que ça, toute l'histoire là-dessus reste assez classique. De temps en temps, t'as quelques démembrements qui font... Ah oui, je me rappelle que c'est le câble et qu'on est chez Ryan Murphy.
Quand même.
Mais à part ça, ça pourrait être sur la CW ou presque. Hein.
T'as ouais, les c'est chasseurs. Charme pour les grands. Quoi. On n'a pas parlé beaucoup de comédie.
Bien,
une
oui.
bonne comédie
oui, Brooklyn Nine-Nine. Pardon.
Super. Merci d'avoir
Mom. Ouais, c'est vachement
lourd. Mom. Ah, c'est super. Enfin, non, c'est pas bon, super.
Non, mais... c'est pas super. C'est extrêmement lourd. Mais Alison Janney est formidable.
Est-ce que ça s'est amélioré après le pilote? Parce
oui.
Le pilote était horrible.
Oui, oui, non, oui. Genre, ça
pilote...
s'est amélioré. Non, non, ça s'est amélioré.
Non.
Ah, si. Si. Non, ouais, mais si, sur le rôle des mères aussi.
Oui,
non. Ah, oui, non, oui, si, oui, si, non, si, si. Il y avait tout un discours sur. Sur être une bonne mère qui est assez terrible.
Non, non, mais ça s'arrange.
Mais ça s'arrange.
Ouais, et à part ça, Brooklyn Nine-Nine, c'est pas bien.
Ah, excuse-moi, mais
non, non.
Adams...
Ouais, non,
c'est
bien, moi je peux pas.
Je peux pas le blairer non
moi,
plus. Le truc, c'est qu'ils arrivent généralement à donner... à le calmer et à donner assez d'importance à tous les personnages, à tous les autres personnages.
C'est-à-dire
et le reste de l'ensemble est vraiment bien. Mmh.
C'est-à-dire les bombasses latinos avec des gros seins, elles sont drôles.
C'est pas des super bombasses. Le meilleur, c'est Terry Crews.
Elles font toutes 25 kilos, elles font 1m80, elles ont moins de 30 ans.
Ouais,
trois filles.
Mais... Non, la troisième, elle est nulle. La secrétaire, elle est chiante au possible. Faudrait la virer. Franchement, on calme un peu plus Sandberg, on vire la secrétaire et l'ensemble serait parfait.
C'est quand même marrant.
C'est
vraiment...
Sérieux.
Alors, on change
de Castille. Le reste...
Mais c'est quand même marrant cette série où les femmes ont moins de 35 ans, les hommes ont plus de 35 ans.
Ah bah oui, c'est normal.
Et il y a quand même une histoire avec un petit moche
ah bah oui,
qui est amoureux, forcément, de la latino, bombasse, machin. Et quand même, c'est un peu dur qu'elle ne s'intéresse pas.
Ah bah oui, le
c'est Parks and Recreation. Franchement, vous avez les mêmes schémas. Vous avez la râleuse,
l'objectif, c'est de nous donner envie, hein, pas nous dégoûter.
Vous avez un Jerry. Vous avez aussi celle qui est toujours positive comme Leslie. Enfin, vous avez vraiment le même style de schéma. Enfin, c'est par la même équipe apparemment.
Mais et donc ça veut dire que c'est une série qui va être bien pendant une saison et demie.
Je sais pas, mais pour l'instant c'est vraiment chouette.
Andrew Bauer, continuez Parks and Recreation.
Ah oui, moi je continuerai jusqu'au bout Parks and Recreation.
Et alors c'est toujours
Non, c'est pas terrible.
C'est décevant, franchement, regardez Brooklyn Nine-Nine plutôt que Parks and Rec parce que Parks and Rec.
Non, mais
The Middle, c'est génial.
The Middle.
Génial.
Ça parle de quoi, The Middle?
D'une famille au fin fond de.
Là.
L'Ohio.
Par comme ça.
Cincinnati, hein. C'est quel état, Cincinnati? C'est Ohio, ouais, je crois. Bref, fin fond de nulle part. Et ils n'ont pas de sous, et ils ont 3 gosses.
C'est hyper original. Comme...
La classe moyenne pauvre, on les voit pas beaucoup hein, les sitcoms. Hein.
Bah, il y avait pas la série sur le mec qui avait un bébé là.
Si, il y a cette série.
Ah, Raising Hope,
par exemple. Oui,
Hope, le côté
deux,
white.
Ouais.
Oui, mais eux, c'est même pas de white trash. Eux, c'est.
Oui, non, c'est.
Un petit peu.
Voilà.
Moins que My Name is Earl, mais.
Raising Hope, oui.
Oui, Raising Hope, oui, mais pas The Middle.
Non, non, The Middle,
c'est juste la classe
moyenne. Non, moyenne, mais moyenne pauvre, quand même.
Dans The Middle, ce qui est quand même chouette, c'est que les 5 personnages principaux, le père, la mère et les 3 enfants, sont aussi drôles, tous les 5.
Oui.
C'est toujours super équilibré, c'est impressionnant.
Oui.
Ah, j'ai du mal avec Brick, maintenant qu'il grandit.
Mais il ne grandit pas, Brick. C'est justement pour ça qu'il...
Non, mais si, ça voit mieux.
Ça voit mieux, oui, oui.
Déjà qu'il avait une voix étrange
avant. Oui, ça va bien.
Sans vouloir manquer un pauvre petit gamin.
Non, mais ça fonctionne bien. Mais ouais.
Allez, on a le droit à 10 minutes de parler des séries qu'on peut regarder comme on a trop de temps et que...
Des séries qui se regardent bien une deuxième, troisième, quatrième fois.
Buffy.
C'est quoi?
Buffy.
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 Toujours. Tu peux te mettre n'importe quel épisode, n'importe quoi.
Oui. Firefly aussi.
Ça vous a pas calmé quand même, Avengers, Agents of S.H.I.E.L.D., Dollhouse,
non, mais Dollhouse,
le côté féministe de Joss Whedon, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment eu envie de voir? Et à côté de ça...
Okay, on va pas commencer par ça parce qu'il faudrait une heure de plus, mais oui, il y a certains...
Peut-être qu'il faudrait que... Ah tiens, je vais le regarder en... avec un certain mauvais esprit pour voir tout ce qui va pas dans Buffy d'un point de vue des femmes, etc.
Dans Buffy... Je pense qu'il y a de quoi faire.
Il y avait des défauts.
Il y avait des défauts, mais à ce niveau-là, quand même, c'est pas... on n'est pas dans Dollhouse, quand même.
Ah oui, c'est ça. C'est vrai que Buffy n'est pas une prostituée à qui on efface la mémoire à chaque épisode. Mais,
Je trouve qu'il y a toujours d'actualité sur pas mal de points, Buffy. Ça se regarde vraiment toujours bien pour le côté fun et sympathique et aussi pour la réflexion qu'il y a. C'est vrai qu'on a toujours à prendre... Il y a toujours ce côté, oui, sois féministe, ça veut dire qu'il faut que tu t'habilles comme ceci, que tu te comportes comme cela. Buffy, finalement, c'était la fille qui n'avait aucun problème à être féminine et qui ne s'en excusait jamais. Et qui pourtant, dans ses attitudes, là, était féministe. Ça marche toujours aussi bien.
Ah, mais si, tu le vends plutôt bien.
Et Firefly aussi. Enfin, Firefly, il y a des petits soucis avec le rôle de la compagne prostituée. Le fait que Mal la traite de pute quand il est... quand ça l'arrange, quoi. Genre avec beaucoup de dédain. Il y a des petits soucis comme ça. Il y a des petits soucis... Enfin, on va pas parler de ce qui va pas chez Joss Whedon, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui vont.
Et est-ce qu'un homme peut être féministe?
Mais oui,
c'est la vraie question.
Mais oui, est-ce que tu es féministe?
Je sais pas.
Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce
non,
que tu
je suis conscient des enjeux féministes.
Mais rien qu'en en parlant, tu es féministe. Je suis désolée.
Parce que tu milites pour le dialogue à ce niveau-là. Tu en parles, tu engages le dialogue. Pour moi, il y a un côté militant.
Mais oui.
Donc tu es féministe.
Oui.
On n'a pas besoin d'être une femme oppressée pour être féministe.
Mais bien sûr que non.
Bon, bah ça va. Véronica Mars, apparemment, ça aurait aussi bien vieilli. J'ai pas du tout envie de voir le film. Mais alors, pas du tout.
Ah oui, non, moi non plus. Hein. Mais j'ai revu la première saison il n'y a pas longtemps. Et c'est franchement, ça a très
Elle
bien vieilli.
Elle a pas
vieilli,
la première.
Ouais, ouais.
C'est la 3 que j'aurais du mal à revoir. Parce
oui,
que
je pense
déjà pas
aussi.
Moi, je me demande si justement à la revoir,
peut-être qu'elle
pas,
tient la route.
Pas mal, en fait. Mais effectivement, j'ai jamais revu la 3e parce que je l'aimais moins bien. Mais les deux premières saisons de Véronica Mars, elles sont.
Oui.
Après, on peut pas regarder un épisode tout seul, mais faut tout voir.
Oui, c'est clair.
Moi, je découvre enfin The Wire, que je n'avais jamais regardé avant, mais là, je me suis dit que plutôt que de regarder des doubles, c'était.
Bah, t'as bien raison.
Et c'est pas mal.
Ça fait se regarder.
C'est-à-dire que, c'est un peu mieux que Vampire Diaries. C'est un peu en dessous de Scandale.
Il y a moins de rebondissements.
Voilà,
hein,
je suis un peu déçu par le rythme.
Des fois, c'est un peu chiant même. Hein. Pouf.
Alors, moi, il n'y a pas beaucoup de femmes pour en revenir à l'obsession du moment. Dans The Wire.
Alors oui, ça a été un reproche qui a été fait à la série, le fait que chez les gangsters en particulier, il y avait très peu de femmes, alors que dans la réalité, elles avaient un rôle beaucoup plus important que ce qu'on a bien voulu leur montrer dans The Wire. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement la sœur de Barksdale, qui est un personnage en soi qui est assez...
Qui est fort,
quoi. Sinistre, oui, complètement sinistre, mais... Oui, ça a été reproché à la série, qui se voulait réaliste quand même, de justement d'avoir omis le rôle des femmes dans les...
C'est vrai qu'il y en a assez peu, il y a quand même la petite frappe là, qui tue tout le monde en...
Oui,
avec 4, la berceuse, là,
oui.
Qui est pour le coup assez...
Ah bah oui, elle inverse les genres aussi, hein, c'est sûr.
Kima.
Kima. Et assez exceptionnel. Et l'avocate aussi, l'avocate, elle est géniale.
La rousse.
Ah ouais.
Qui sort avec
oui.
Le mec de Fringe.
Oui.
Et celle qui est que en saison 2, enfin qui a pris un rôle secondaire, mais qui joue la flic.
Oh, elle est géniale.
Elle est super.
Elle est fabuleuse.
Et pour le coup, elle est.
Elle est fabuleuse.
Mais c'est vrai que
c'est vrai que David Simon et qui quand même. Et son équipe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes dans le pool des scénaristes. Non. Il faut quand même des super personnages d'Entraîner,
oui.
Les personnages féminins de Trémé. Je pense qu'on l'a déjà dit 50 fois.
Oui, on l'a dit 50 fois, mais on peut le répéter. Déjà, Trémé, regardez Trémé. Hein. Trémé, c'est génial. Hein. Et alors, les personnages féminins d'Entraîner... Bah, tous les personnages, c'est pas juste les personnages féminins. Tous les personnages.
Ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à... Il y a des personnages, au départ, sur lesquels t'es quand même pas... super enthousiaste,
bah, genre Davis,
DJ Davis.
Davis, il faut du temps pour l'apprécier. Et moi, maintenant, mais il me fait mourir de rire.
Atroce. Et je sais pas, mais c'est justement cette maîtrise du temps, moi, qui m'avait marqué dans The Wire, qui est aussi dans Trémer, c'est-à-dire qu'ils arrivent à capter la force du quotidien, la force de... Je sais pas, qui fait que... T'es juste bien avec les personnages.
Oui. Oui.
Bon, vous pouvez regarder Marie Tyler Moore Show et Rodin.
Ah bah
aussi.
Oui, bien sûr.
Je suis tombée sur un épisode d'Urgence à la télé l'autre jour. C'est vrai que ça se regarde toujours aussi bien.
Non mais Urgence,
c'est affreux.
Genre, je me suis fait l'intégrale l'année dernière. J'ai pris mon pied.
T'as vu les 15 saisons?
Oui, j'ai vu les 15 saisons. Wow. Avec mon mec en plus, on a regardé. On s'est fait ça en l'espace de 6 mois. Ça a pris 6 mois quand même.
C'était... Alors les 5 dernières.
Elles sont... Mais non, mais alors.
De la 10 à la 14, parce que moi je crois que j'ai arrêté en 11, je crois. C'est moins bien.
C'est moins bien, mais ça reste toujours excellent, hein, de mon point de vue. Hein. Alors oui, on va dans le soap un peu et on s'intéresse un peu trop à la vie amoureuse des médecins et tout, mais tant que derrière il reste le discours social et le discours politique, on s'en fout. Hein.
Ça reste toujours, on voit toujours la misère.
On voit toujours la misère, on voit toujours les problèmes de financement, les problèmes de à qui on donne le pouvoir dans l'hôpital pour diriger les choses. C'était une série politique, une série humaniste, comme j'ai dit, et une série politique. Et ça, on n'a plus de ça. Hein.
C'est vrai que, ouais. Est-ce que c'est parce que ça a été la crise ou...
Et ils parlaient dans l'urgence, enfin, il y avait à l'époque, enfin, tous les épisodes qu'ils ont fait autour du sida, c'était exceptionnel. On ne le verrait plus maintenant.
Il n'y a plus de personnages séropositifs à la
télé. Non, ça n'existe pas. Alors que, enfin voilà, on avait. Et puis, il n'y avait pas que ça, c'était sur l'identité sexuelle, les gens, le genre. Le racisme, l'antisémitisme, tout. La pauvreté, la maladie mentale.
Et dans mon souvenir, il n'y avait jamais un discours comme on pouvait trouver, par exemple, dans les séries de David Ikili sur ces sujets, où il y avait à la fin un truc bien dit, qui disait quoi penser et tout.
Voilà.
Non, et l'urgence, c'était juste la toile de fond, mais c'était très fort et sans jamais empiéter sur le plaisir qu'on pouvait avoir à regarder la série. Ah, mais tu me donnes envie de regarder.
Ah, mais vas-y.
Peut-être que les 5 premières.
Mais tu peux pas regarder juste les 5 premières, tu vas vouloir tout regarder.
Il y a quand même un problème dans l'urgence.
Quoi?
C'est Anna Delamico.
Qui s'en va.
Une seule saison.
Je sais. C'était la grande tragédie de ma vie. Le docteur Delamico ne reste qu'une saison.
Et ce gros connard de Carter.
Oui, mais Carter, on l'aime beaucoup quand même.
C'est quand même un connard.
Oh, mais pas tant que ça. Puis sur la fin, c'est vraiment tragique, tout ce qui lui arrive avec sa femme.
Ah, Urgence, c'était la bonne époque.
C'est vrai qu'il y a Grey's Anatomy à la place maintenant.
Mais c'est pas la même chose.
Non, Orange is the New Black, pour le coup, c'est une série à fond qui fait un commentaire. Voilà,
aussi,
c'est celle qu'on peut comparer. Parce que The Good Wife, il y a du fond, mais c'est pas non plus. C'est pas la même ambition
sur le
fond.
Mais c'est vrai, Orange is the New Black, pour le coup, oui. C'est pareil. C'est politique. Ça s'intéresse aux gens, quoi.
Ouais.
Ouais, aux gens et au système.
À la vie, au système qui les broie, qui laisse pas une seule chance. Hein.
C'est vrai que la morale, enfin les conclusions à tirer de la série sont... On te les laisse les tirer toi-même. On te montre qui finit en prison, dans quel style de conditions. Donc tu as la malchance, tu as plusieurs exemples complètement différents. Et après, tu en tires toi-même tes conclusions, tu te dis, ah ouais, c'est quand même forcément les gens les plus pauvres, généralement, donc les minorités aussi, oui, qui se trouvent coincés parce que voilà, t'as même pas les moyens de te défendre, oui, et puis même quand tu sors, et ben même là, t'as toujours pas ouais, de chance, enfin...
Et il y a aussi un chouette discours sur le communautarisme ouais, qu'on voit jamais, puisque comme c'est United Color of Benetton dans les séries, oui, c'est-à-dire
oui,
t'as toujours un black, un asiat, un machin, et qui nie le fonctionnement communautariste, enfin communautaire, je sais pas comment dire sans qu'il y ait quelque chose de péjoratif dans ce que je dis, mais quelque chose qui existe et qui est quasiment jamais montré. Et ça, c'est dans Orange is the New Black, c'est vraiment très chouette.
Et qui, en plus, du coup, a, pour chaque communauté, plusieurs représentants, ce qui n'est jamais le cas dans les séries soi-disant diverses, où tu as un représentant de chaque communauté. Oui. Éventuellement, s'ils sont en couple, il y en a un deuxième, parce que souvent, ce n'est pas des couples trop mixtes. et puis voilà.
Tout ça est très stéréotypé, bien sûr.
Parle-nous un peu de Rhoda. Est-ce que c'est quand même le générique qu'on a écouté?
Ah oui, on finit sur Rhoda alors.
Ah bah oui, allez, que je passe pas pour l'espèce de monomaniaque.
Rhoda, c'est génial. je préfère Rhoda à Marie-Thérèse Monchot.
Alors c'est quoi Rhoda?
Ben, Rhoda, c'est l'histoire d'une trentenaire qui revient à New York après avoir passé quelques années dans une ville très froide.
À Minneapolis.
Et qui vient pas spécialement pour se marier, mais bon, qui tombe amoureuse et qui se marie avec un gars qu'elle connaît pas très bien, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc il décide pourquoi pas. Et c'est sa vie à elle, son nouveau mari, sa sœur et sa mère principalement.
Et donc c'est une comédie avec un personnage féminin marié,
oui,
qui ne se définit pas uniquement sa relation.
Voilà, c'est pas toute sa vie. Hein. Sa vie, c'est pas juste être mariée et rendre son mari heureux.
Et c'est drôle à mourir.
C'est, oui, extrêmement drôle.
Et c'est vrai que... Moi, je vais tenir le discours passéiste, etc. sur les sitcoms, mais... Clairement, quand c'est des bons acteurs qui ont un peu d'expérience de théâtre, de machin, oui, c'est quand même autre chose que... Effectivement, Anna Faris, elle est quand même pas terrible.
Elle est nulle.
Elle est quand même assez mauvaise. Et c'est quand même de plus en plus répandu. Friends, je pense que c'est la faute de Friends, où ils ont réuni 6 très bons acteurs. Je sais plus, est-ce que j'ai entendu ça? Qui disaient, c'est le paradoxe de Friends. En gros, ils étaient tous très beaux, très jeunes et très bons. Et résultat, les directeurs de casting ont juste pensé que dans les sitcoms, on pouvait mettre juste des gens beaux et jeunes. Et il y a quand même désormais quand même pas mal de séries humoristiques où les acteurs ne sont pas à la hauteur du tout. Et,
c'est très dur la comédie. Hein,
et dans ces séries-là...
très dur de jouer la comédie, oui.
Rhoda, tous ces trucs-là...
Non, mais oui. Enfin, le timing, les questions de timing, ça ne s'invente pas, quoi. Ce n'est pas un truc que tu chopes, c'est l'expérience. Hein. Savoir rendre une ligne de texte drôle, la rendre vraiment drôle, hein. C'était pas si facile que ça. Et surtout dans les sitcoms, dans les...
Mais ouais, ça c'est impressionnant.
C'est pour ça que j'aime bien l'équipe de Brooklyn Nine-Nine.
Parce qu'ils sont tous vraiment bons.
Non, mais ils sont tous vraiment bons, ouais.
Sauf Adam Sandberg, là où
Adam Sandberg, il peut être drôle quand on lui donne pas trop d'importance, quand on le calme un peu. S'il est le centre de l'histoire de l'épisode, là effectivement, il devient vite énervant. Il en fait des tonnes, mais généralement, c'est assez bien contrebalancé. On en donne assez à tout le monde et. Et là, il arrive à être tout à fait supportable et même à être drôle. Franchement, il m'a fait rire.
Okay.
Quelques fois.
Ok.
Et je peux pas pleurer.
Qu'au Carton, ils sont tous bons aussi, les acteurs. Mais c'est pas que des jeunes beaux gosses, justement.
Quoi donc?
Qu'au Carton.
Ah, Qu'au Carton,
d'ailleurs, ça
ouais,
va reprendre un
je
jour
sais
ou pas.
Pas.
Oui, je crois. Oh, Ellie, elle est quand même assez mauvaise.
Non, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Après, elle a, je pense, le rôle où elle se joue elle-même,
oui,
comme dans
ça,
tous
oui,
ses rôles, mais elle le... Elle est pas... En tout cas, elle est à la hauteur de son personnage. Ça me gêne pas.
Elle était drôle à l'époque du Drôle Carré Chaud.
Oui. Courtney Cox, qui est pas mal, est quand même pas hilarante. Tu lui dis, si elle doit tenir 3 minutes où elle parle toute seule, est-ce qu'elle est capable de te faire mourir de rire?
C'est peut-être pas, hein. Peut-être aussi que la série a adapté son écriture à son casting. Oui. Hein. Mais
peut-être aussi que le visage a un peu de mal à bouger.
C'est un peu le souci. Hein.
Ça aide pas.
Des actrices maintenant.
Mais je compare par exemple à New Girl que j'ai essayé, enfin je suis pas très loin. Il y a des choses chouettes dans New Girl, mais je peux pas dire que le casting il la rend en lui-même. Enfin, à part, il y en a un ou deux qui sont très bons et les autres
qui
font leur truc
assez génial.
Winston est devenu bon cette année parce qu'on lui a donné quelque chose à faire. On lui a donné du bon matériel.
On lui a donné un chat. Ça suffisait.
Non, mais c'est vrai que maintenant qu'on l'a défini comme le type un peu bizarre, eh ben, il est très bien dans cette voie-là, finalement. Et ça y est, on lui a trouvé c'est sa branche. Donc on
c'est le noir.
Ah, d'accord.
Enfin, maintenant, il y en a deux.
Maintenant, il y en a deux, oui.
Et c'est pareil, on ne sait pas quoi faire de coach. Pareil, Wyatt Junior était génial dans Happy Endings.
Oui,
dans
il
Miguel,
a le même rôle un peu, d'ailleurs. Ou alors il joue de la même façon, en fait.
Enfin, ouais, c'est un personnage dans New Girl un peu plus connard quand même.
Ending, c'était rigolo pendant 3 épisodes et ensuite.
La saison 3, c'était la caricature. La femme, enfin,
c'était vraiment.
C'était un peu des caricatures.
Oui. Celle qui était géniale dans Happy Ending, c'est triste de le dire, mais c'est Elisha que je
vois. Oui, non, elle était géniale.
Parce qu'ils ont adapté le rôle à ses compétences. Hein, mais...
Oh non! Si.
Bah ouais, parce que
c'est il lui donnait pas
quand même des choses très compliquées à faire,
mais elle était très bien
à jouer. Je suis pas sûre, hein. Non, je trouve un peu dur, hein. Je pense que c'est une meilleure actrice que ce qu'on veut bien,
c'est possible, mais comme elle joue des rôles d'idiote, c'est dur de...
En gros, faut que le script soit adapté à ce que tu sais faire le mieux, quoi. C'est un peu la conclusion.
Ouais.
Et bien sur cette pensée.
Bonne fête.
C'est une bonne fête.
Joyeux Noël.
Tout ça.
Enfin, bonne fête, pour être.
Oui. C'est pas que Jésus, hein. C'est pas que Jésus.
Non. Attends, on va pas lancer le débat parce que ce n'est pas Jésus.
Coifferez-vous bien. Essayez de pas manger de foie gras, hein, parce que franchement.
Ouais. En tant que végétarien,
n'est-ce pas, on ne peut qu'insister sur les conditions inhumaines.
Bah forcément, c'est inhumain, c'est pas des humains.
Merci, Jérôme.
Ah, et j'aimerais bien qu'au prochain podcast, on parle du traitement des végétariens dans les séries.
Oui, dans Parks and Recreation, pareil. Oui, je suis d'accord.
Les végétariens sont traités d'une discrimination
complètement
assez terrible.
Des végétariens. Pourquoi?
C'est-à-dire
c'est
qu'un
vrai.
Végétarien, c'est... le fait d'être végétarien, c'est toujours quelque chose qui prête à la moquerie.
C'est
oui.
ça.
C'est ça.
Oui. Et ils bouffent c'est toujours des trucs les
personnes
végétariennes. Ils
bouffent
toujours
des
dindes dans tofu.
C'est ça.
Tout le monde. Et c'est la punchline de tout l'épisode.
C'est ça.
Et c'est très pénible.
La deuxième femme dans Trophy Wife, elle doit être végétarienne, non?
Sûrement.
Elle pourrait, quoi.
Oui, elle pourrait, complètement. Et elle me fait, oui, elle fait boire des trucs dégueulasses aux gens. Parce que c'est bon pour la santé. Mais dans Parks and Recreation, c'est très énervant.
C'est qui les végétariens?
Il n'y a pas de végétariens. Enfin, si.
Il y a un anti-végétarien.
Oui,
il
y a. Et puis même. Comment il s'appelle? Rob Lowe, hein. Le personnage de Rob Lowe.
Ouais.
Il mange. Je sais pas ce qu'il mange de viande. Hein. Justement, il invite à un barbecue chez lui et en fait, il a que des aubergines.
Donc, c'était.
Et voilà. En fait, tiens, m'acheter des aubergines pour toi, David.
Mais il y avait. La série de Ryan Murphy, elle avait fait un épisode scandaleux sur, avec les deux gays qui veulent faire un enfant avec leur mère porteuse, dans lequel la gamine essaye de devenir végétarienne pendant un épisode, et pendant tout l'épisode, c'est que moquerie, et vraiment, le tofu, c'est dégueu. Et à la fin, elle goûte son espèce de dinde en tofu, et genre, elle a « Ah, vraiment, c'est trop immonde, allez !» et il tue la dinde et il la bouffe. Et j'ai trouvé ça un peu choquant.
Ça fait mourir de rire, Jérôme, c'est bien.
Mais non. Dans Six Feet Under, la végétarienne, c'est la plus chiante
oui,
de tout.
Ah,
l'ex-femme
folle.
De Mercer, ouais. Elle était végétarienne.
Bah,
ça.
Oui.
Ouais. Il y a que dans Friends que Phoebe avait un personnage un petit peu
elle consistant. Était végétarienne.
Ouais, sauf qu'elle se mettait à manger de la viande.
Et puis là, elle devenait.
Quand elle était enceinte pour être en bonne santé.
Vrai.
Mais bon, c'était un peu plus.
Et qu'elle, trompe, et qu'elle, qu'elle récupère le manteau en fourrure de sa grand-mère et qu'elle ne peut pas le quitter. C'était pas mal aussi.
Mais bon, ça se moquait pas du personnage.
Non, enfin, non,
ça se moquait du personnage, oui. Mais pas de...
Pas de ses convictions.
Pas de ses convictions.
Eh bien, ce sera très intéressant d'en parler.
Voilà. Donc, arrêtez de manger des animaux et puis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.
Bye.